Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'encore cet après-midi, on peut s'arrêter, on peut prendre le temps d'écouter aussi, Seigneur, ce que tu as à nous dire à travers ton serviteur, Seigneur. Et Père, cet après-midi, j'ai à cœur aussi de t'apporter son épouse Fabienne, ses 4 enfants aussi, Samuel, Johanna, Anaïs et Raphaël. Seigneur, prends soin d'eux, Seigneur, sois auprès d'eux. Et merci parce que tu veux encore nous bénir cet après-midi et nous parler à chacun dans nos cœurs. Et Seigneur, je te remets tout spécialement Emmanuel en te demandant d'être avec lui, de poser ta main sur lui. Et Seigneur, je veux prier aussi déjà pour son retour dans son foyer. Garde-le sur la route, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.
Merci Rebecca, merci aussi à vous pour votre présence cet après-midi, à ces dames et ces messieurs également. Donc cet après-midi, ce que je vous propose, c'est un enseignement autour du thème des guérisseurs, des quelques mots aussi concernant les médecines alternatives, et puis aussi concernant la question de l'hypnose. À la base, Rebecca m'avait demandé d'apporter un enseignement dessus. Je dois vous avouer que je ne suis absolument pas un grand connaisseur de l'hypnose. J'avais quelques petites pistes, j'en ai profité aussi pour poser la question à un de mes amis, Gilles Boucoumont, que j'ai rencontré lundi dernier sur la question de l'hypnose. Il m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre sur le sujet. Du reste, il y a un évangéliste qui s'appelle Franck Alexandre, qui est évangéliste chez les pentecôtistes, qui vient de sortir un ouvrage sur la question de l'hypnose, mais il est très très tranché dessus. Du coup, ça manque un petit peu de nuance, à mon avis, ce que me disait aussi Gilles Boucoumont. Donc, je me réjouis de voir ce livre qui sortira de la plume de Gilles Boucoumont. Je vous apporterai quelques éléments d'information dessus. Et je me suis dit, puisqu'on parle de l'hypnose, ça serait peut-être bien de l'élargir de manière plus large à la question des guérisseurs. Surtout qu'en Suisse, vous le savez, les guérisseurs sont très présents. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de découvrir un petit peu le monde des guérisseurs, de découvrir aussi quelles sont les différentes catégories de guérisseurs qui existent, parce qu'il y a plusieurs catégories qui sont là sur le territoire français et aussi en Suisse romande en particulier. Ensuite, je vous donnerai quelques mots concernant l'aspect biblique, et puis on verra aussi un petit peu la question des médecines alternatives, et on terminera par la question d'hypnose, avec aussi un petit apport spirituel, et ensuite on pourra avoir également un temps de questions. Donc cet après-midi, contrairement aux autres enseignements que je vous ai donnés, ça ne sera pas forcément directement, en tout cas immédiatement, un enseignement spirituel dans le sens avec des éléments bibliques. Ça va venir seulement dans un second temps. L'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir un petit peu ce monde. Habituellement, c'est des enseignements que je ne donne pas à n'importe qui, que je ne montre pas à tout le monde, certaines vidéos, parce que parfois, il y a des choses qui peuvent un petit peu nous déstabiliser lorsqu'on ne connaît pas. L'objectif non plus, ce n'est pas de faire l'apologie de toutes ces pratiques, c'est-à-dire la défense. Mais comme je le dis souvent, si on veut comprendre et si on veut aider des gens, c'est important quand même d'avoir des éléments d'information. Globalement, on n'a pas forcément besoin de tout connaître et de tout savoir pour aider quelqu'un, pour prier pour la personne et pour la libérer. Maintenant, si on veut creuser un petit peu la question et puis savoir comment ça fonctionne et avoir une certaine crédibilité aussi, parfois c'est bien d'aller un petit peu plus loin. Mais d'aller plus loin, non pas dans le sens avec un esprit malsain, mais dans le sens de savoir ce qui se passe pour savoir de quoi il en retourne tout simplement. C'est un petit peu ce que je me propose de voir avec vous cet après-midi. Alors quelques chiffres d'abord, des chiffres qui concernent le monde des guérisseurs. Les chiffres sont très difficiles à voir parce qu'il n'y a pas de statistiques qui ont été menées. Contrairement aux voyants, aux médiums, c'est un petit peu plus... Là, on a davantage de chiffres. On estime qu'il y aurait 10 000 guérisseurs magnétiseurs rebouteux et autres leveurs de mots. Ça, c'est pour la France. En Suisse, on sait qu'ils sont plusieurs centaines. Et on sait aussi en Suisse que c'est particulièrement en Suisse romande qu'il y a le plus de guérisseurs. Et dernièrement, justement, je m'étonnais de cela et j'en parlais à un ami qui travaille en Suisse et qui est aussi dans ce domaine-là. Et je lui dis, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'en Suisse, un pays protestant, il y a les 480, il y a la signature des 480 ans, on a vu ça l'autre jour, de l'adoption de la réforme par la ville de Genève qui a été signée. Comment ça se fait que dans un tel pays, il y ait tellement de guérisseurs, un engouement pour ça, quoi. Et il me faisait remarquer la chose suivante, à savoir que les guérisseurs sont surtout présents en Suisse romande. Et que la Suisse romande est essentiellement, d'après ce qu'il me disait, enfin le catholicisme a fortement marqué cet endroit-là. Et il me disait que dans les endroits, dans les cantons ou les villes ou les villages qui étaient davantage protestantes, en tout cas à la base, ce phénomène n'était pas aussi prononcé que dans un endroit ou dans des endroits où le catholicisme avait davantage marqué. Preuve que, sans tirer sur nos amis catholiques, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes chez eux aussi, il faut le reconnaître, mais preuve que le catholicisme ou une certaine forme de catholicisme a grandement, au cours de l'histoire, favorisé la prolifération et le développement de toutes sortes de croyances ésotériques, paranormales, et comme on le verra ce matin, il y a eu un grand mélange. Et donc c'est souvent dans un contexte catholique que des croyances bizarres ont pu voir le jour ou se manifester. On ne peut que le constater. Deuxième chose, le développement des guérisseurs, enfin ça fait longtemps qu'ils existent, mais on voit depuis une trentaine d'années un développement prononcé, que ce soit en Suisse, mais également en France, en Haute-Savoie, tout ce qui est limitrophe de la Suisse. À Lyon, les guérisseurs, on commence à les étudier de plus en plus, notamment les magnétiseurs. À Paris également, on commence à s'intéresser à ce monde-là, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui, l'homme moderne cherche absolument à soulager. Et on cherche à soulager par tous les moyens possibles. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui le matin va voir son médecin, l'après-midi ou deux jours après, il va consulter son spécialiste, et puis en même temps, dans ce laps de temps, entre le médecin et le spécialiste, c'est pas rare que les gens aillent voir un magnétiseur, un énergéticien, ou alors quelqu'un qui est là pour faire des énergies, ou les aider, ou les soulager. Et aujourd'hui, on voit, les gens voient aucun problème avec ça. Ça ne les empêche pas de passer d'un monde hyper rationnel, comme celui qui est proposé par la science moderne, à un monde qui est absolument irrationnel. Quand on parle de Jésus, ça les dérange davantage, mais à ce niveau-là, ça ne les dérange absolument pas. Donc on va être en pleine irrationalité, et deux heures ou trois heures après, on va être en pleine rationalité. Donc ça, c'est quelque chose de très, très contemporain et qui tend à se développer de plus en plus. Et ça nous permet de comprendre aussi pourquoi tout ça, ça prolifère et également pourquoi les gens y voient absolument pas de mal. Je vous propose de découvrir une toute petite vidéo qui nous parle un tout petit peu de l'ampleur du phénomène en Suisse. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Regardez.
Denis Vipret est un guérisseur suisse. À chaque tournée à Genève, ce fils de paysan reçoit 300 personnes par groupe de 20. Avec son bras droit, il prodigue de légères pressions sur les épaules du patient pendant une trentaine de secondes pour libérer son énergie. Ensuite, en moins d'une minute, il rend son diagnostic.
Aussi bien qu'un médecin, mais je vois tout, quoi, je veux dire. S'il y a des tumeurs, cancer, sida, ECMI, manque de fer, ligaments...
Coût de la séance, 40 euros. Et Denis assure qu'il peut continuer à protéger ses patients contre à peu près tout pendant un mois par la pensée. Et il n'est pas seul à soigner de cette façon. Il serait plus de 500 guérisseurs en Suisse francophone, d'après ses technologues.
On a constaté que quand même de nombreuses personnes se sentent un peu abandonnées par cette médecine qui est déshumanisés, ils sont un peu considérés comme des numéros, et donc ils préfèrent se retourner vers des guérisseurs et aussi vers des méthodes plus naturelles, puisqu'on est un peu dans cette vague écolo-bio.
En Suisse, patrie des banques et de l'industrie pharmaceutique, la guérison spirituelle est reconnue. En septembre dernier, le secret, ces formules soi-disant magiques murmurées par les guérisseurs, est entré dans la liste des traditions vivantes.
Voilà, ça s'est arrêté ici. Un mot sur les guérisseurs en Suisse. Donc là, vous venez de voir un guérisseur suisse très connu. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Denis Vipret. D'ailleurs, il y a même des guérisseurs qui sont contre lui, qui ne l'apprécient pas. Je pense parce qu'il pique une grande partie de leur clientèle et que c'est quelqu'un qui vit relativement bien, puisque contrairement à d'autres guérisseurs, il demande quelque chose et il a des centaines de patients chaque semaine et son calendrier est plein plusieurs mois à l'avance. Hein. Et donc c'est vrai que c'est un gars qui est assez troublant, certains ne savent pas dans quelle catégorie il faut le mettre, puisque comme vous l'avez entendu, d'une main il diagnostique la personne et il voit tout ce qui se passe, de l'autre main il va la soulager, et soi-disant il retient le nom de 30 000 ou 40 000 personnes dans son esprit, et pendant 40 jours si la personne a un problème, ça c'est ce que lui dit, eh bien automatiquement son esprit va se mettre en branle et va faire quelque chose pour cette personne-là. Donc ça, c'est un guérisseur parmi d'autres. Ensuite, vous avez vu cet ethnologue suisse qui a écrit un livre qui s'appelle « Les guérisseurs », un livre qui est sorti il y a maintenant quelques années. Un collègue pasteur suisse, sachant que je m'intéresse au sujet, me l'avait offert. Et Magali Génie, c'est une ethnologue qui a bénéficié et qui est pour les guérisseurs, puisqu'à plusieurs reprises dans sa vie, elle a bénéficié de leur action et elle leur a donc consacré un livre. Et ce livre est intéressant parce que dans un premier temps, elle nous montre un petit peu d'où vient ou d'où viennent les guérisseurs. Donc ça, c'est la partie historique, ça nous éclaire. Ensuite, elle parle des différentes catégories de guérisseurs avec de nombreux témoignages. Et ce qui est beaucoup moins réjouissant, en tout cas pour nous autres, qui avons une autre vision sur le sujet, c'est qu'à la fin du livre, elle donne des dizaines d'adresses de guérisseurs qui ont souhaité paraître dans ce livre. Et donc, ça leur a fait de la publicité gratuitement. Et ce livre a été diffusé à, je ne sais pas moi, il y a quelques années, ils étaient déjà à 50 000 exemplaires qui avaient été vendus juste pour la Suisse. Donc, en Suisse, il y a toute une tradition, comme vous le savez, de guérisseurs qui sont l'objet d'un véritable engouement depuis très longtemps aussi. Je vous parlais du livre de Magali qui leur a consacré un bouquin sur le sujet, qui est la thèse qu'elle avait écrite sur le sujet, je pense. Et puis en Suisse, vous le savez aussi, peut-être que parmi vous, il y en a qui travaillent dans le domaine hospitalier, médical. En Suisse, vous avez dans toutes les cliniques ou tous les hôpitaux la liste des guérisseurs qui est là. Bien entendu, la liste n'est pas affichée publiquement, mais souvent ce sont les infirmières, hein, comme ça a été dit, qui ont ça à disposition, ou alors y a des médecins aussi qui sont pour ça et qui l'ont. Et par conséquent, quand un patient est brûlé fortement et qu'on ne sait pas comment faire pour le soulager, on demande à la famille et puis dans certains cas, on ne demande même pas. Et puis parfois, lors de certaines opérations, lorsqu'il y a des hémorragies qu'on n'arrive pas à arrêter ou on est un petit peu embêté, on va téléphoner en pleine opération à un guérisseur pour qu'il fasse quelque chose pour que l'hémorragie arrête. Donc c'est quelque chose qui est inséré non seulement dans le tissu social mais aussi au niveau médical. J'ai quelques amis qui travaillent en Suisse dans le domaine hospitalier, donc quelqu'un qui est chef de service dans une clinique et qui depuis de nombreuses années lutte contre ça et est bien embêté et me disait dernièrement, je ne sais plus quoi faire parce que en voulant que ça cesse, les autres me regardent bizarrement quoi. Et il me disait mais qu'est-ce que je pourrais utiliser comme argument. J'attirais son attention sur le fait que la guérison qui est proposée est une guérison d'ordre spirituel. Or, nous sommes dans une société laïque et par conséquent, eh bien, quelque chose de spirituel, normalement, n'a rien à faire à l'hôpital. Et si ça a à faire à l'hôpital et si on veut que ça ait lieu, dans ce cas-là, il faut aussi ouvrir la porte au curé, au pasteur et à tous ceux qui prient pour les malades et qui proposent eux aussi une thérapie spirituelle. Donc, je lui ai dit peut-être que ça, c'est un argument. Il m'a dit, effectivement, c'est un argument que je vais retenir et je vais voir dans quelle mesure on pourrait essayer d'utiliser la chose. Parce qu'en réalité, c'est ça, hein, c'est quelque chose de spirituel qui est proposé, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais ça appartient à ce monde-là. Et le phénomène des guérisseurs continue aussi, ça c'est juste pour votre information, de faire l'objet de plusieurs études. Et vous avez des ouvrages qui maintenant commencent à paraître, non seulement des ouvrages de guérisseurs, mais des ouvrages aussi qui sont des ouvrages un petit peu plus scientifiques, ou plutôt vus sous un angle ethnologique ou alors sociologique, parce que ces hommes font l'étude et ces femmes d'études. Donc moi j'encourage, hein, je vous encourage aussi à prier dans ce sens-là. Moi je crois qu'on a aussi besoin dans nos milieux protestants évangéliques de personnes qui se lèvent et qui vont aussi non seulement apporter autre chose d'un point de vue spirituel comme on le fait déjà, mais aussi travailler la question pour pouvoir tenir tête également à ces personnes qui ensuite vont peut-être pousser dans un sens. Qu'est-ce qu'un guérisseur? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme de guérisseur? Alors difficile d'avoir une définition, puisqu'un guérisseur ne se qualifiera jamais et ne dira jamais qu'il est un médecin ou alors docteur, et il n'est pas vraiment non plus un thérapeute. Un guérisseur se situe davantage normalement dans ce qu'on appelle l'action. Et les guérisseurs eux-mêmes ont du mal à donner une définition de ce qu'ils font, de leur propre pratique. Le guérisseur se situe davantage dans l'action et il a à son service essentiellement deux instruments, je dirais même trois. Le premier instrument, enfin ce n'est pas un instrument, c'est d'abord le don qu'il a, puisque tous, comme nous le verrons tout à l'heure, vous parlent de dons. Ensuite, il va utiliser la parole, c'est le cas par exemple des faiseurs de secrets, et il va utiliser ses mains, ce qui est le cas des magnétiseurs et des énergéticiens et encore d'autres personnes. Donc essentiellement à ses mains, la parole et les mains, et puis aussi le don qu'il a. Donc on voit qu'il y a effectivement des parallèles aussi à faire au niveau chrétien. Nous aussi, nous avons essentiellement la parole qui nous a été donnée, à travers laquelle on transmet le message, et aussi au nom du Christ, on libère les autres. Ça se fait par la parole, les mains, l'imposition des mains, et puis le don aussi que le Seigneur donne. Ce qui va changer, c'est la source. Les guérisseurs portent différents noms. Et ces noms changent en fonction des régions ou des endroits, que ce soit en France, en Suisse. Si par exemple je vais en Haïti ou alors si je vais en Afrique, je vais retrouver les mêmes personnages, mais ils porteront d'autres noms. Leur pouvoir sera plus ou moins puissant, mais c'est toujours plus ou moins la même réalité. En fonction des régions de France, on va les appeler guérisseurs, rabilleurs, passeurs de secrets, toucheurs, magnétiseurs, grands maîtres guérisseurs, leveurs de mots, de sorts, rebouteurs, radiesthésistes, énergéticiens. Parfois même, ils sont appelés exorcistes. Dans certaines régions, j'ai vu ça, non pas exorcistes dans le sens où nous le connaissons, c'est-à-dire l'expulsion de démons, comme on peut le voir dans les évangiles ou avec l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, ou comme nous le connaissons actuellement, mais exorciste ici est utilisé dans un sens thérapeutique, pour soulager et guérir. Il existe différentes catégories de guérisseurs. Alors Magali, dans son livre, en propose plusieurs. Pour ma part, je ne suis pas exactement la même, je ne les mets pas exactement dans les mêmes catégories, vu l'expérience et ce que j'ai pu voir également. Je vous livre quand même un petit peu les catégories qu'elle voit, particulièrement en Suisse, bien sûr, puisqu'elle est suisse. Alors d'abord, elle a une première catégorie qui sont les guérisseurs et qui comprend pour elle tout ce qui est magnétiseur, radiesthésiste, énergéticien. Donc les radiesthésistes, ce sont ceux qui vont utiliser par exemple le pendule. D'accord ? On utilise un pendule pour soit choisir des médicaments, soit par exemple certains sourciers utilisent le pendule pour trouver l'eau. Ils vont prendre une carte et puis sur cette carte, ils vont passer le pendule et ils vont vous dire, voilà, il faut que vous alliez creuser à 2,5 km d'ici, exactement à tel point, il faut que vous creusiez à tant et tant de mètres et là vous allez trouver de l'eau et vous aurez tant et tant de mètres cubes qui sortiront par heure. Effectivement, il ne se trompe pas. Ou alors quelqu'un qui a perdu son chat, qui va voir quelqu'un qui prendra une carte et aussi avec le pendule, il dira, votre chat se trouve à 10 km d'ici, il est sous tel arbre, et effectivement, paf, on retrouvera. Donc là, il ne s'agit pas d'un don qui fait partie d'un don, je dirais, de l'ordre créationnel, mais ici, il s'agit de ce qu'on appelle d'un don de perception extrasensorielle, c'est-à-dire un don, en réalité, c'est un don de voyance. Un don de voyance qui va être appliqué à la guérison ou qui va être appliqué à autre chose. Deuxième catégorie que vous avez, ce sont les rebouteux. Alors elle note, et c'est vrai que c'est une espèce en voie de disparition. L'autre jour, nous en parlions avec Jean-Paul, justement, des rebouteux. Alors les rebouteux, il faut distinguer deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle les rebouteux qui n'ont pas de dons occultes, où il n'y a pas de pouvoir. C'est simplement des personnes qui sont capables, simplement vous touchant, de remettre les nerfs en place, de bouger les choses, et parfois avec des résultats qui peuvent être spectaculaires. Et à tel point que même des médecins ou des ostéopathes ou autres vont être scotchés et vont se dire, mais comment est-ce qu'ils savent tout ça? Donc il s'agit, à mon avis, ici, davantage d'un don d'ordre créationnel, au même titre que vous avez des gens qui n'ont jamais fait de la menuiserie et qui sont capables de faire des objets extraordinaires, au même titre que vous avez parfois des gens qui se lèvent ou des petits Mozart, des petits génies, qui n'ont rien appris en musique et qui sont capables de jouer. Voilà, hein. Il y en a qui aimeraient bien avoir ça, quoi. Commencez par moi. Mais bon, hein. Et donc, voilà. Alors maintenant, il faut faire attention avec les rebouteux, parce que dans les rebouteux, vous avez deux catégories. Vous avez les rebouteux où c'est quelque chose de naturel, et puis à côté de ça, vous avez les rebouteux où il va y avoir un don paranormal. C'est-à-dire, quelque chose qui, à la base, serait neutre, ou ferait partie de l'ordre créationnel, va se greffer là-dessus des dons. Tout simplement parce que peut-être il y a des liens dans le cadre de la famille, ou alors parce que ce rebouteux souhaite accroître son pouvoir et être plus efficace, et par conséquent va prendre quelque chose en plus. Et donc là, ça devient bien embêtant, parce que là, ben, c'est le principe dont Jésus parle dans l'Évangile, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Et donc il suffit qu'il y ait quelque chose qui à la base soit noyauté, ça va toucher tout le reste également. Et par conséquent, on ne peut plus leur faire confiance, ni à mon avis aller chez ces personnes-là. Alors moi personnellement, je vous propose trois catégories de guérisseurs, plus ce qu'on appelle les médecines alternatives, et qui ne font pas partie directement bien sûr de ce qu'on entend par guérisseurs. Et puis ensuite on parlera de l'hypnose. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les faiseurs de secrets. Donc je vais vous expliquer qui ils sont dans quelques instants, vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce monde aussi. Après, on va parler courtement des magnétiseurs et énergéticiens. Et puis d'une troisième catégorie de guérisseurs qui n'est pas très connue, mais bon, je vous donnerai des éléments d'explication puisque l'occasion m'en est donnée. Ce sont ce qu'on appelle les guérisseurs de type spirit, qui ne sont pas énormément présents chez nous en Europe, mais qu'on retrouve, entre autres, en Amérique latine et dans d'autres pays encore. Alors, un mot sur les faiseurs de secrets. Donc, qui sont-ils, les faiseurs de secrets? Quelques mots. On les appelle faiseurs de secrets, on les appelle barreurs. Voilà, on les appelle faiseurs de secrets, barreurs, diseurs de secrets, ou alors ceux qui font le secret. Bref, ils portent différents noms. Si vous leur posez la question, de leur avis, il s'agit en réalité d'un charisme, c'est-à-dire d'un don, hein, d'un don qu'ils ont. Alors parfois, ils vont vous dire que c'est un don divin, d'autres vont vous dire que c'est un don tout court, parce qu'ils ne croient pas forcément en Dieu, hein, ils ne sont pas forcément tous croyants là-dedans, et qui a le pouvoir de soulager certains maux dont nous sommes plutôt affligés. En réalité, le secret, c'est quoi? En réalité, le secret, c'est très simple, c'est simplement une incantation ou une prière qui a la particularité d'être dite à voix basse, qui va être marmonnée. Vous allez percevoir, si vous allez chez le guérisseur et si vous êtes à côté de lui, quelques mots. Vous allez par exemple reconnaître le nom de Dieu, je le disais l'autre jour, parfois vous allez entendre le nom de Jésus, et puis vous allez entendre d'autres noms qui vont être marmonnés, mais vous n'aurez jamais l'accès à la totalité de la prière. Et si vous demandez au guérisseur, est-ce que je peux avoir la prière parce que ça m'intéresse, ou alors j'aimerais savoir comment ça fonctionne votre truc, il ne vous la donnera jamais. Le seul cas où il vous la donnera, c'est s'il souhaite vous la transmettre pour que vous-même vous puissiez aussi avoir le don et par conséquent l'utiliser pour d'autres personnes, ou alors s'il souhaite s'en débarrasser, parce que parfois vous avez des guérisseurs qui après 10 ans, 20 ans, 30 ans veulent arrêter. Il y en a qui veulent arrêter parce qu'ils perçoivent qu'il y a quelque chose de lourd à porter à cause de ce don-là. Et par conséquent, ils veulent s'en débarrasser et donc ils vont le donner à quelqu'un d'autre, ou alors ils vont le donner au chevet près de leur mort. Hein. J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes à qui on a voulu refiler un secret juste avant de mourir, parce qu'ils voulaient que ça continue et que d'autres personnes puissent être soulagées. Et certains, ben, notamment un ami chrétien, lui, il a dit ben, « moi ton truc, j'en veux pas quoi hein. ». Au contraire, il lui a parlé de l'Évangile, mais il n'y avait pas d'ouverture à ce moment-là. Alors je vous invite à regarder une courte vidéo là, enfin elle dure quand même 2-3 minutes, il s'agit de d'une vidéo d'un guérisseur aussi très connu en Suisse, Georges de la Loy, je crois qu'il s'appelle, et qui est entre autres un faiseur de secrets, un gars assez connu, et donc il y avait un reportage qui avait été fait, les médias s'intéressent beaucoup à eux, regardez un petit peu.
À toute autre formation, un faiseur de secrets, un don, à quel moment s'en aperçoit-il, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait remarquer que vous avez un don?
Alors, pour ma part, je peux le dire, je l'ai toujours eu, en fait. Après, il y a des personnes qui vous le font découvrir, ce don.
J'ai lu dans votre petite biographie que vous avez soigné des oiseaux très jeunes.
Oui, j'aimais bien soigner des oiseaux, c'est vrai.
Mais alors, comment est-ce qu'on sait? C'est qu'ils ont mal à une patte, c'est le cas de le dire. Et puis
exactement. Exactement, on les tient dans les mains et puis ils vont mieux. On les met dans la petite maison que j'avais construite avec une pomme de terre, un peu d'eau.
Avec Marqué Georges, voilà. Faiseur de secrets. On dit que vous soignez à distance, par téléphone.
Oui.
Comment ça se pratique? On se brûle, on vous appelle. À quel moment vous appelle-t-on?
Alors on m'appelle surtout pour les brûlures, parce que vous avez cité les brûlures. Et il n'y a pas d'heure d'appel en fait. Dès qu'on a mal ou dès qu'on se brûle, on peut me téléphoner, je suis disponible.
Et les hôpitaux ou les médecins vous appellent quand ils ne peuvent plus rien faire?
C'est plutôt les infirmières qui appellent pour les patients. Hein.
Ouais. Dans votre corporation, comment sait-on? Vous dites l'un et l'autre le bouche à oreille. Comment est-ce qu'on sait dans un village? C'est peut-être facile. En ville, comment est-ce, à part dans la version avant l'ouvrage, comment on sait qu'un tel ou un tel est guérisseur ou faiseur de secrets?
C'est bon, le bouche à oreille. Maintenant, on a le livre à Magali. Puis si vous allez sur mon site, il y a la liste des faiseurs de secrets dessus sur moi.
Alors, vous n'auriez jamais dû parler de site. Est-ce que vos médecins du ciel ont un site?
Bien sûr, dans mon cœur.
Et vous dites qu'ils sont toujours connectés. Il n'y a jamais de zone d'ombre?
Non, aucune. C'est moi qui débranche de temps en temps parce qu'on est ainsi fait. Des fois, il faut avoir un peu de calme. Après,
qu'est-ce que vous dites? Silence là-haut?
Non, je ferme le natel et puis c'est bon.
Et avec les médecins du ciel aussi, c'est une discipline personnelle. Vous disiez aussi que des fois, vous faites une formule en voiture, mais est-ce qu'on risque pas d'être distrait?
Très distrait.
Comment vous faites ça, alors?
Alors, à ce moment-là, j'agis en état de stress. Et pour cela, j'ai une autre formule que je fais un petit peu plus tard. Mais je dis simplement, je suis en stress pour cette personne. Et je nomme la personne. Voilà. C'était la même chose quand j'étais ambulancier. C'était pareil, je faisais pareil.
Ah donc, vous avez des compétences de, entre guillemets, médecine normale, j'ose plus dire traditionnelle, parce que ça veut dire l'inverse. Vous travaillez à Montaigne, en Valais, et vous travaillez dans la chimie. Alors c'est curieux, cet univers des chiffres, où à un centigramme près, on peut tout faire exploser ou tout brûler. Comment naviguez-vous entre ces deux univers très rationnels et totalement irrationnels, ou dans l'énergie pure?
Alors, ça, c'est assez difficile à continuer de le concevoir, qu'on peut faire les deux. J'essaye, c'est mon gagne-pain, hein, il faut le faire.
La chimie, hein, pas le...
La chimie, tout
à fait. Pas votre faculté. Est-ce que ça se transmet de père en fils ou de frère en sœur?
Alors, pour ma part, c'est mon frère qui me l'a transmis. J'en suis très content, je le remercie de là où il est, hein, parce qu'il est décédé. Voilà.
Il s'est aperçu que vous aviez ça aussi?
C'est-à-dire, c'est assez particulier parce que mon frère me l'a transmis en étant décédé déjà depuis de nombreuses années. En fait, j'ai reçu la formule par l'écriture automatique, mais là, c'est encore un autre sujet.
C'est un autre domaine.
Vous avez vu, c'est intéressant, quoi. Hein, ça nous permet de voir un petit peu comment fonctionne ce monde des guérisseurs. Et puis, vous avez vu que lui, immédiatement, hein, on trouve... des choses qui clochent, quoi, qui vont pas, hein, avec ce que la Bible nous dit sur le sujet. Lui, il a reçu son don, par son frère qui est décédé, quoi, au travers de l'écriture automatique, qui est un truc vachement occulte, quoi, un truc louche d'un point de vue spirituel. Alors, ça fonctionne pas comme ça forcément pour tous les guérisseurs, mais comme on le verra tout à l'heure, il y a toujours quelque chose derrière. Alors, ce secret, comme vous l'avez entendu là, au travers de l'histoire de cet homme, de ce témoignage, guérit généralement. Ou est censé aider dans plusieurs situations, que ce soit les brûlures, l'eczéma, des entorses, des problèmes de peau. Le principe est le suivant, un secret pour un mal. S'il y a plusieurs mots, il va falloir utiliser plusieurs secrets. En réalité, quand vous regardez d'un petit peu plus près, ces secrets, c'est toujours pour des mots courants. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se lève de sa chaise roulante. De son fauteuil roulant, pardon. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait vraiment une grosse, grosse, grosse pathologie qui est sorti soulagé ou alors voire guéri de chez un guérisseur. Ça ressemble étrangement un petit peu à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament avec les pharaons, avec les mages de Pharaon, hein, qui faisaient aussi certains tours de passe-passe, voilà, pour épater la galerie. Mais dès qu'on commence à parler de choses un petit peu plus sérieuses, ils disparaissent, on ne parle plus d'eux, ils sont de côté. Alors, quelques mots sur l'origine et l'histoire du secret. Selon certains, le secret viendrait de la tradition catholique et du milieu campagnard. Et effectivement, quand on regarde bien les choses, le secret vient vraiment de la tradition catholique, du milieu campagnard. Et les premières preuves écrites que nous avons, c'est ce que je vous disais rapidement l'autre jour quand on me posait la question, se trouvent à la fin du Moyen-Âge, lors des procès de sorcellerie, etc., où justement, dans des grimoires et autres, ben, c'est là qu'on retrouve ces fameuses formules qui, par la suite, vont être gardées, écrites et transmises aussi. Alors, dans tout ça, vous avez un grand mélange. Il y a un mélange, parfois, avec de la médecine populaire, qui serait acceptable, puisqu'il est question de plantes, puisqu'il est question de choses naturelles. Mais à côté de ça, vous allez avoir des formules magiques qui vont se greffer dessus, des rites qui doivent être faits aussi à certains moments donnés, à tel point que ça devient de plus en plus un gros, gros, gros mélange. Et ce qui fait que vous avez certains secrets où il faut, non seulement il va y avoir une parole qui va être dite, mais parfois il y a aussi une pommade qui doit être mise. Donc si ça se trouve, la pommade qui est proposée, tout dépend comment elle a été fabriquée, c'est peut-être quelque chose de positif à la base. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, on va proposer de répéter une formule, etc. Et là, on n'est plus dans l'ordre de quelque chose de l'ordre créationnel qui serait donné à tout le monde et qui serait bon, mais on est dans quelque chose du rituel magique. Dans ces secrets aussi, les dieux celtiques et les puissances invoquées vont être remplacés par des saints catholiques. Vous savez que dans la tradition catholique, il y a eu toute une récupération des anciennes croyances des personnes qui étaient évangélisées. Pendant très longtemps, c'est comme ça qu'ils ont fait leur évangélisation. Ils ne sont pas embêtés. Tout le monde pouvait accepter le Christ ou croire dans le Christ. Et en même temps, les gens, ils venaient avec leur lieu de culte, ils venaient avec leur tradition, ils venaient avec leurs croyances. Et pour ne pas trop les embêter et leur demander un trop grand changement, on gardait les dieux qu'ils invoquaient, les puissances, et on les christianisait simplement, on leur donnait d'autres noms. Si vous allez par exemple en Haïti, dans le vaudou, qui est une croyance fortement occulte, païenne, dans le vaudou, bien chaque puissance ou chaque être spirituel dans le vaudou a son pendant dans le catholicisme. Ce qui fait que tous les catholiques haïtiens sont tous des vaudouisants. Donc ça va exactement dans les deux sens. Donc c'est comme ça que l'évangélisation s'est faite pendant très longtemps. Et donc, ça va être remplacé par des saints à qui on reconnaît le pouvoir de guérir. Donc, vous retrouvez saint Téton, saint Gothard, enfin bref, tous les grands saints catholiques. Un tel, il faudra boire l'eau de telle source et prononcer telle parole. Ça guérit les rhumatismes, l'autre guérit ceci, l'autre guérit cela. Donc, ce sont, voilà, ces saints. Mais à l'origine, derrière ces saints, se trouvait le nom d'autres puissances qui étaient invoquées, qui étaient appelées. Et on les a simplement remplacés, mais les principes spirituels sont ceux qui opéraient à l'origine. On retrouve aussi certains secrets dans les grimoires, donc qui sont des livres de magie ou de sorcellerie, et là vous en avez plein. Alors quelques exemples de secrets qui révèlent ou qui relèvent plutôt de l'aspect magique, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne aujourd'hui chez les guérisseurs, mais vous retrouvez ça dans certains ouvrages, par exemple prendre une couenne de lard, la frotter contre la verrue jusqu'à l'écoulement du sang, puis cacher le morceau sous une grosse pierre et la jeter dans une fourmilière. Quand la couenne est décomposée, la verrue est partie. Après, vous en avez d'autres qui sont encore plus louches. Écrire le nom de la personne sur un bout de papier et jeter dans une fourmilière le premier vendredi de la lune décroissante. Enfin bref, vous en avez plein d'autres. Alors ça emprunte à la fois à des aspects concrets, pratiques. Frotter la verrue, effectivement, ça peut aider. Mais à côté de ça, vous allez avoir certaines croyances qui vont être greffées dessus. Et c'est là que ça devient souvent bien embêtant. Donc ça, c'était pour les secrets d'origine magique. À côté de ça, vous avez aussi, ou plutôt un mot sur la transmission du secret. Puis ensuite, on passera à la deuxième catégorie des guérisseurs. Il y a tout un rituel de transfert pour le secret. Vous avez des secrets qui peuvent être donnés à n'importe quel moment de l'année. Peu importe. Vous pouvez le donner aujourd'hui, vous pouvez le donner ce soir, vous pouvez le donner après-demain. Peu importe, vous le donnez à la personne et ça va fonctionner. Moi, j'ai même rencontré un jour, lors d'une conférence en entretien, une dame qui vient me voir et qui me dit, écoutez, moi, je crois ni en Dieu, ni dans le diable, je suis totalement athée, on m'a filé le secret pour faire je ne sais plus quoi, je crois même pas dans ce secret, et pourtant, quand je le fais, ça marche. Donc, on n'est absolument pas dans un principe de foi, tel que l'Écriture, par exemple, le décrit, on est vraiment dans quelque chose qui relève d'une formule magique. Et ces formules doivent être transmises pour certaines n'importe quand, et pour d'autres, il faut les transmettre à certains jours de l'année. Et si vous les transmettez en dehors de ce jour de l'année, celui-ci ne fonctionnera pas. C'est le cas, par exemple, de ce secret-là. Regardez, c'était passé sur TF1, en plus.
Pour moi, c'est super de... Pour Marlène, coupeur de feu, ce n'est pas une sensibilité, c'est bien un don qui se transmet. Mais il est difficile d'en savoir beaucoup plus long.
Dans le reportage, je vous pose déjà la question, je vous dis comment ça marche.
Mais non, vous ne le saurez pas.
Mais c'est parce que vous ne le savez pas vraiment vous-même non plus.
Non, mais vous voulez savoir la formule. Non, non, je ne vous la donnerai pas. C'est pas le jour.
Non, j'allais dire. Alors, si c'était le jour, est-ce que, par exemple, je pourrais devenir coupeur de feu?
Mais bien sûr. Pourquoi? Pourquoi vous pourriez pas? Puisqu'après, je vais vous donner le don.
Mais dans sa famille, ce n'est possible que le soir de Noël. Ce soir-là, Ludovic était l'élu.
On y va, Ludo?
C'est parti, je te suis.
Viens.
La transmission avait été extrêmement rapide. À l'abri des regards, la formule secrète lui était communiquée.
Il n'y a pas de raison.
À partir de maintenant, vous êtes considéré comme un coupeur de feu ou il faut essayer d'abord?
Enfin, bon, essayez.
Je suis contente de l'avoir passé, que, ben, ma foi, quelqu'un d'autre que moi puisse prendre la relève.
C'est important, ça.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous allez en faire de ce don?
Bah, comme tout coupeur de feu, bah, soulager les gens s'il y a possibilité.
Voyez la subtilité un petit peu? Secret transmis le soir de Noël. Avec un truc comme ça, celui qui n'est pas éclairé, qui ne connaît pas ce monde-là, vous avez même des chrétiens qui se font avoir, hein. Moi, j'étais dans certains milieux évangéliques et j'ai eu en entretien des chrétiens qui avaient des secrets. Ils ne les utilisaient pas, mais on leur avait filé. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec, mais ils ne s'en sont pas désolidarisés. Ils n'ont pas jeté le truc. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait quelque chose derrière qui n'était pas sain. S-A-I-N et puis S-A-I-N-T aussi. Hein. Vous voyez, le soir de Noël, et vous le transmettez en dehors, ça ne fonctionne pas. Et vous en avez plein des secrets comme ça. J'ai un ami qui est spécialiste et qui a accompagné pas mal de gens à ce niveau-là et qui se sont retrouvés. Et voyez aussi, alors là j'empiète un petit peu sur ce que je dirais tout à l'heure, mais juste un élément d'information concernant le don. Là, c'est je vais donner le don à quelqu'un, alors que c'est absolument pas comme ça que fonctionnent les dons dans la Bible. Les dons, c'est pas nous qui les donnons, et même si nous imposons les mains à quelqu'un pour transmettre certains dons, eh bien c'est toujours le Seigneur qui le fait. C'est toujours le don dépend toujours de Dieu. Et même celui qui reçoit, par exemple, un don pour guérir, de guérison, ou un don de prophétie, ou un don de parole de connaissance, le don ne sera opérant que si le Saint-Esprit, à un moment donné X, le donne. Ça veut dire que s'il se trouve dans une situation où il y aurait besoin de cela, par exemple, quelqu'un qui souffre, mais Dieu ne donne pas à ce moment-là le don, et la personne ne sera, par exemple, pas soulagée. Ou alors la parole de connaissance ne viendra pas aussi. Hein ? C'est totalement différent. Dans le domaine chrétien ou dans le milieu chrétien, il y a toujours une dépendance et une recherche de Dieu et une soumission à Dieu et en l'occurrence à l'Esprit, alors que dans ce monde-là, on est vraiment dans le monde de la magie. C'est le monde de Harry Potter, c'est le monde de l'esbrouf, c'est le monde qui en met plein la vue, quoi. Et ça fonctionne de manière totalement différente. Hein. Donc déjà, ça nous éclaire et ça nous donne un élément d'information sur la provenance de ces choses-là. Deuxièmement, un mot sur les magnétiseurs et les énergéticiens. Donc là, vous voyez un magnétiseur breton hein, dans son cabinet. Donc le magnétiseur, lui, il va généralement passer la main près de la personne à quelques centimètres, voire quelques dizaines de centimètres, voire parfois même à un mètre ou plus loin que ça. Alors quand vous l'écoutez, il va vous dire qu'en réalité, il rentre dans le corps énergétique de la personne, ou alors dans le corps astral, ou alors dans le corps spirituel. Enfin, ils ont toute une terminologie qui leur est propre. Et finalement, ce qu'ils disent, c'est que, voilà, il rentre dans le corps de la personne. Et vous voyez, ce gars, il se met à bouger. J'ai d'autres vidéos encore plus spectaculaires où la personne, où le magnétiseur se trouve à 2-3 mètres de la personne et celle-ci se sent poussée en arrière ou en avant ou sent qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'intérieur d'elle-même alors qu'il se trouve à 2 mètres ou à 3 mètres. Et il va vous dire, je suis dans le corps énergétique. Alors, Bien entendu, nous savons tous qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de magnétisme animal ou plutôt de magnétisme terrestre ou autre, quoi. Que le magnétisme est quelque chose d'avéré, d'existant. Mais de là à dire que ce magnétisme nous permet de faire de telles choses et puis surtout de commencer à parler de corps astral et autres, à mon avis, on est dans un autre domaine. On n'est plus dans quelque chose qui serait de l'ordre créationnel, c'est-à-dire que Dieu a donné aux êtres humains, mais on est là dans quelque chose qui relève davantage du monde spirituel. Vous avez des nuances qui existent dans ce monde-là. Vous avez les magnétiseurs qui, normalement, vont utiliser leur propre source d'énergie. Et puis, à côté de ça, les énergéticiens, eux, vont davantage chercher, normalement, à canaliser une énergie universelle. Ils vont vous dire qu'il existe une énergie universelle qu'on retrouve aussi dans la philosophie chinoise ou dans des philosophies de type asiatique. On va vous parler du chi ou du qi ou du ri, je ne sais pas comment ils prononcent ça. On va dire qu'il y a une énergie qui traverse tout être humain, qui traverse les choses et par conséquent que toute maladie vient d'un dysfonctionnement de cette énergie. D'où le fameux yin et yang, c'est-à-dire que si on veut être en santé, si on veut que ça aille bien dans sa vie, il faut toujours que ce soit équilibré entre le positif et le négatif, entre le bon et le mauvais, etc. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte finalement que derrière tout cela, c'est plus un système de croyance qui est là et qui guide les choses. Et on veut vous dire que cette énergie est là et que l'objectif de l'énergéticien, c'est de chercher à capter cette énergie. D'où les fameux guérisseurs ou énergéticiens, voire même parfois des magnétiseurs, qui vont se promener sur certains chemins, en France ou en Suisse, au printemps, et particulièrement aussi en automne, où ils viennent recharger les batteries pour pouvoir à nouveau aider les personnes et les soulager et leur apporter un certain bien-être. Donc tout ça, c'est très, très, très spirituel, très... voilà. Alors... on ne va pas trop se concentrer sur les magnétiseurs et énergéticiens, ni sur le fonctionnement de ce monde, parce que quand vous commencez à creuser, ça devient très technique, hein, c'est normal. Chacun a son propre langage, ses propres pratiques, mais les principes sont là. Les principes sont ceux exactement que je vous décris, et s'il y avait un magnétiseur avec nous cet après-midi ou autre, il vous dirait effectivement, c'est bel et bien ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Certains font remonter leur pratique à l'Égypte ancienne, donc on voit un petit peu d'où ça vient. Il y en a même qui vont vous citer cette phrase, soi-disant qui date de 15 siècles avant le Christ, à savoir « pose ta main sur ta douleur », ça ressemble un petit peu à ce que M. Coué proposait aussi, quoi, et d'autres, quoi. Un mot maintenant sur les guérisseurs spirites. Alors là, on rentre dans quelque chose de plus profond encore, à mon avis, et de plus lourd, même si le reste est déjà bien chargé d'un point de vue spirituel. Les guérisseurs spirites, qui sont-ils ? J'en avais pas parlé dans mon livre, parce que je les ai découverts par la suite, surtout. Ce sont des personnes qui se disent habitées par des entités spirituelles. Alors quand vous entendez le mot entité spirituelle, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les médiums, mais aussi chez les guérisseurs, des entités spirituelles, ils vont appeler ça des entités spirituelles, des êtres de lumière. En réalité, nous on appellera ça des démons. On ne va pas leur dire que c'est des démons, hein, parce que si on leur dit comme ça de but en blanc, ils ne comprennent pas. Je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Mais c'est le langage qu'ils utilisent. Ou alors ils vont vous dire que ce sont des personnes décédées. Par exemple, des prêtres, des médecins, personnes qui vont agir au travers d'eux pour soulager. Et donc, par conséquent, ceux qui sont généralement des guérisseurs spirites vont être incorporés à certains moments donnés, parfois même très longuement dans la journée, par ces entités spirituelles qui viennent et qui leur permettent d'effectuer certaines choses. Vous en avez deux qui sont connus dans le monde et qui sont... oui, deux personnages très connus. Vous avez d'une part Jean de Dieu. Bonjour les chevilles. Ah, ben oui, hein, quand même, il se fait appeler Jean de Dieu, quoi. Hein. Tu vois ça un peu, quoi. Le mec, bien sûr, on lui mettra un petit dé à son Dieu. Hein. C'est pas le même. Et puis, vous avez d'autre part aussi les guérisseurs philippins qui continuent d'être eux aussi très connus. Je vous propose de regarder deux vidéos. Elles sont un peu particulières. Elles peuvent un petit peu déranger. Pour vous montrer un petit peu, voilà ce qui se passe de leur côté. Après, je reviendrai dessus, on passera à autre chose. Regardez, on commence avec Jean de Dieu. C'est un tout petit extrait. Hein.
« João Teixeira de Faria. Le centre de guérison, la Casa de Don Ignacio, se trouve à Abadiania, petite ville du Brésil située près de Brasilia. Depuis plus de 25 ans, ce sont des millions de personnes du monde entier qui sont passées par la Casa. João se dit être incorporé par 30 esprits.
Là, il fait une écriture automatique hein, que vous avez vu avant.
Et vous donne ce dont vous avez besoin pour favoriser votre guérison. On a constaté jusqu'à 4000 visiteurs par jour. Il pratique la chirurgie visible et la chirurgie invisible. La chirurgie visible se déroule sans anesthésie et sans asepsie. João anesthésie ses patients par une simple imposition de la main. Le médium se sert d'instruments chirurgicaux ou plus simplement d'un couteau de cuisine ou d'un cutter. Il a été le sujet d'études de plusieurs équipes scientifiques provenant d'universités, du Brésil, du Japon, des États-Unis et d'Allemagne. De nombreuses personnalités du spectacle, le président du Pérou, des médecins, des avocats, des magistrats, des prêtres, ont fait appel à lui.
Voilà, j'aurais bien des vidéos à vous montrer, hein. Alors, je les montre généralement pas dans les églises quand je circule. Si je fais des enseignements à en institut biblique et autres, et parfois je les montre. L'objectif, c'est, faut pas se laisser impressionner par ce qu'on voit. Mais c'est triste dans le sens que, vous avez d'autres vidéos où vous voyez le gars, il est vraiment à un moment donné, il est totalement possédé hein, par ces esprits hein, qui viennent en transe. Il est vraiment en transe. D'ailleurs, lui-même se souvient plus de ce qu'il fait, quoi. C'est pour ça que souvent il filme la chose, quoi. Et donc, comme ils vous l'ont dit, avec une main, il anesthésie les gens, ensuite il leur passe des trucs dans le nez, il leur fait des incisions sans aucune asepsie, sans rien du tout. Quels sont les résultats de tout ça? Il y a plus de 1500 personnes qui viennent toutes les semaines chez lui. Moi, je connais malheureusement des gens qui sont allés là-bas, ils sont rentrés, ils sont morts, quoi. Je veux dire, il a des résultats. Il a des résultats. Après, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans le domaine chrétien, quoi. Pour moi, ce qu'on voit dans le domaine chrétien est toujours un cran au-dessus. Et puis surtout, on sent immédiatement qu'il y a derrière cela un autre esprit. Donc lui, il fait à la fois des guérisons qu'il appelle physiques, comme vous le voyez ici. Et puis à côté de ça, il fait des guérisons spirituelles, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas d'opération comme ça. Ils attendent dans une salle et donc ils passent et là, il va répéter quelques prières, quoi. Et ce qui est surprenant, c'est que parfois, il utilise le nom du Christ aussi, hein. Parce que comme tout guérisseur, il sait que le nom du Christ est capable de faire quelque chose, quoi. Mais ce qui n'est pas signe forcément que ce soit le Christ, et même si c'est lui qui devait agir à certains moments donnés, cela ne justifie en rien, bien entendu, tout le reste qui va être fait à côté de ça. À côté de ça, vous avez aussi les guérisseurs philippins. Alors,
guérisseurs philippins.
Courte vidéo.
La polémique qu'ils suscitèrent dans les années 70 résonne encore à nos oreilles. L'un des plus célèbres d'entre eux est Alex Orbito, considéré comme l'un des grands guérisseurs actuels. Il parcourt la planète depuis plus de 30 ans. Ses traitements ne durent pas plus de 2 à 3 minutes. C'est l'actrice Shirley MacLaine qui le fit connaître au monde entier par le biais de ses ouvrages. Alex Orbito est un des guérisseurs les plus étudiés par le monde scientifique.
Et vous en avez d'autres encore, hein, dans le domaine des guérisseurs philippins. Vous avez Walter Vapiani, dont je vous parlais la dernière fois. Si ça vous intéresse, lisez son livre, parce que lui est allé chez les guérisseurs philippins. Hein, il a été se former là-bas. Et fait très étonnant et très intéressant, c'est que lui, il était catholique d'origine. Et il avait absolument ou très peu de connaissances bibliques. Et la première fois qu'il est allé là-bas et qu'il a vu ça, ce n'était pas Alex Orbito à qui il a eu affaire, c'était une femme qui a été formée par lui. Quand il a vu ça, la première chose, le premier mot qui lui est venu à la bouche, c'était « mais c'est du spiritisme ». Et eux se sont défendus. Ils ont ouvert la Bible et ils ont montré que Dieu condamnait explicitement le spiritisme. Et tout de suite, lui, du coup, ça l'a rassuré. Et fait encore beaucoup plus troublant, c'est que tous les matins, avant de commencer leurs opérations, il me disait, je ne sais pas s'il relate dans le livre, mais il me l'a dit, parce que j'ai eu l'occasion plusieurs reprises de travailler et faire des conférences avec lui, on s'apprécie beaucoup, eh bien, il me disait qu'il y avait quelqu'un qui lisait la Bible et qui prêchait pendant 20 minutes, tous les matins. Ensuite, ils avaient une guitare, ils avaient des chants, ils invoquaient l'esprit, Et tout d'un coup, il y a une femme, toujours la même, qui rentrait en transe, et c'est elle qui allait faire ce genre d'opération. Et lui, il a épongé des dizaines de litres de sang, des matières, et il n'y avait aucune incision qui était faite là. Donc voilà, c'est quoi en réalité? Eh bien, il avait raison lorsqu'il est allé là-bas en disant que c'était du spiritisme, c'est-à-dire des esprits qui sont là et qui permettent tout simplement de faire certaines choses. Mais il y a une grande supercherie derrière cela, parce qu'il y a la Bible qui est présente, parce qu'il y a des messages qui sont apportés, et il y avait sur le fond de la salle où il travaillait un triangle avec, dedans, c'était marqué par la puissance du Saint-Esprit. Et au bas du triangle, il y avait ce qu'on appelle le fameux œil maçonnique que vous voyez de temps en temps, qui s'appelle le troisième œil, qui, pour les occultistes, est l'œil qui permet justement de voir dans le monde spirituel. Voyez ? Donc il y avait un mélange avec des éléments chrétiens, bibliques, et en même temps d'autres éléments. Et l'esprit qui était invoqué, c'était pas le Saint-Esprit. Voyez ? À la base, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, c'est fort probable, on ne sait pas toute l'histoire. Mais très vite, ça a dévié et c'est d'autres esprits qui sont venus. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dira dans les épîtres, l'apôtre Jean dira dans ses épîtres, n'accordez pas foi à tout esprit. Ça veut dire qu'il peut y avoir, y compris dans le corps de Christ, et a fortiori, à combien plus forte raison à l'extérieur, d'autres esprits qui peuvent se faire passer pour Jésus. Hein, on l'a vu en délivrance des démons qui se faisaient appeler Jésus, parce que Jésus est un prénom. Voilà, c'est pas Jésus le Seigneur ou Jésus le Christ. Si vous regardez dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, Jésus est rarement seul. Et si son nom est cité seul, on sait que c'est réellement Jésus de Nazareth. Mais Jésus est toujours qualifié, Jésus-Christ, Jésus le Seigneur, Jésus de Nazareth, le Messie, etc. Ça, c'est un personnage bien clair, bien identifié dans l'histoire, alors que Jésus tout seul, il peut y en avoir plein des Jésus. Pour vous montrer un petit peu toute la subtilité et toute la supercherie aussi qu'il peut y avoir et la séduction dans ce monde-là. À tel point, moi j'ai vu des vidéos avec des guérisseurs philippins qui chantent. C'est joli quand ils chantent, hein. Vous avez presque envie de chanter avec eux. Hein. Le problème, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils invoquent. Quoi. C'est un autre esprit qui vient. Quoi. Déconnecté du Père et du Fils. Et puis surtout, eux-mêmes, on leur a certainement imposé les mains. Donc par conséquent, c'est noyauté dès le départ. Alors d'où viennent leurs dons? Ça va, vous suivez toujours? Oui? D'où viennent leurs dons? La plupart des guérisseurs disent que leur don vient d'en haut ou d'une force supérieure. Ça, c'est quand vous leur posez la question. Certains, ils ne savent pas, mais ils ont un discours qui est très simple et qui, en pratique, est très efficace. C'est « je fais du bien, j'aide quelqu'un, qui plus est, je ne demande rien, par conséquent, je soulage, j'aide les gens. Qui ne veut pas être aidé et soulagé ?» C'est vrai qu'on a envie de dire oui, tout le monde a envie de dire oui. On a envie que les gens soient aidés et soulagés. Je remarque que contrairement aux autres pratiques occultes, la Bible ne condamne pas les guérisseurs. Hein. Ça veut dire que vous ne trouvez aucun verset dans la Bible où les guérisseurs sont condamnés. En tout cas, il n'y a rien de clair et de précis sur ce sujet. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose de positif chez eux? Non. Non, pour les raisons que je vais vous donner et que j'ai déjà donné quelques-unes jusqu'à présent. Et puis non aussi parce que un jour, je posais la question à Walter et ça me dérangeait un petit peu. Je me dis, écoute, je suis embêté, je ne trouve pas d'assise biblique. Je sais que ce n'est pas de Dieu et que ça ne vient pas de là, puisque j'ai souvent prié pour des guérisseurs et j'ai vu qu'ils ont été délivrés de leur pouvoir et que c'était clairement occulte. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau biblique? Et il me dit, tu sais, ce n'est pas compliqué, tout guérisseur est voyant. C'est un voyant en réalité. Ça se manifeste simplement au travers de la guérison. Voilà, c'est clair. C'est un don de voyance ou de perception extrasensorielle qui est un don de voyance. Et par conséquent, la voyance, divination et tout ce que vous voulez est largement condamnée dans l'Écriture. Donc non, pour les raisons que je viens de citer et puis ce que je viens de dire ici. Alors ce que je vous propose maintenant un petit peu, c'est de comparer l'action de la guérison divine à l'action des guérisseurs. Je fais souvent ça, je le fais aussi dans mon livre et je trouve que c'est assez utile parce que ça nous permet un petit peu de voir justement, de poser des jalons et de voir en détail comment et pourquoi c'est une action ou des actions qui ne sont pas bonnes ou bibliques. Déjà, les guérisseurs vous parlent souvent d'un fluide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certains vont se référer même au texte de Luc 8, versets 43 à 48, où il est question de cette femme qui a été guérie d'une perte de sang. Vous vous rappelez de l'épisode ? Cette femme qui est guérie d'une perte de sang et qui vient, enfin qui a une perte de sang, qui vient, qui touche Jésus avec foi et elle va être guérie. Et Jésus va dire, qu'est-ce qui se passe, qui m'a touché, hein, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et les guérisseurs, ils connaissent ce texte-là. Ils connaissent beaucoup les évangiles et ils aiment beaucoup les évangiles. Et beaucoup de guérisseurs, ils aiment énormément Jésus. Comme diraient les jeunes, ils kiffent trop, quoi. Hein, ils aiment Jésus parce que Jésus, c'est un grand thérapeute. Et ils ont une certaine admiration pour la personne du Christ. Et ils disent, ah ben chez moi c'est exactement la même chose. J'ai aussi une énergie, une puissance qui sort. C'est simple, ils vont vous dire ça. Sauf que chez le Christ, la puissance qui est sortie, elle est bien identifiée. C'était la puissance de l'Esprit dont il avait été revêtu en vertu du fait qu'il était et qu'il est fils de Dieu. Donc c'était non pas une puissance non identifiée, mais une puissance qui est bien identifiée, qui n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve chez les guérisseurs. N'oubliez pas ça, hein, les guérisseurs sont vraiment intéressés par la personne de Jésus. Je vous donne un exemple que je n'ai pas relaté dans le livre puisque ça m'est arrivé après, mais il y a 2 ans de cela, voilà qu'il y a quelqu'un qui me met en relation avec une dame qui a fait du Reiki dans la région. Donc une dame qui faisait du Reiki, hein, le Reiki qui est une sorte comment qualifier le Reiki ? On va imposer les mains à la personne, pour qu'elle puisse s'ouvrir à une sorte d'énergie universelle et aller mieux, se sentir mieux dans sa vie. C'est une sorte de pratique qu'on retrouve dans certaines médecines alternatives, etc., mais qui a des fondements qui ne sont pas clairs. Et cette femme, elle était même maître Reiki, ça veut dire qu'elle enseignait aux autres, et à côté de ça, elle faisait aussi du magnétisme, et elle faisait des massages classiques. Hein, voilà, donc elle avait 3 choses, et puis elle faisait ça chez elle à la maison, elle avait un joli petit cabinet, et cette femme-là, un jour, elle est allée sur un marché, et des chrétiens de la région lui ont filé mon ouvrage, et je ne parle même pas de Reiki dedans, rien du tout. Et elle l'a lu, et tout d'un coup, elle a eu un gros doute, alors que dans ce qu'elle fait, elle parle jamais de Dieu, mais des fois elle s'ouvre à une sorte d'énergie quand elle impose les mains aux gens pour leur permettre de devenir maître Reiki, de passer à un niveau supérieur, et elle a eu tout d'un coup un doute et elle s'est demandé si c'était si naturel et si clair ce qu'elle faisait. Et tout d'un coup elle a réalisé là qu'il y avait quelque chose de pas bon. Et ce qui est fou, c'est que cette femme, elle n'avait même pas lu l'évangile avant, rien du tout. Du jour au lendemain, elle a tout arrêté. Elle a arrêté de faire maître Reiki, elle a arrêté de faire les passes magnétiques, elle a juste gardé les massages. Et elle m'a fait venir chez elle à la maison. Donc j'étais tout l'après-midi dans son cabinet avec elle, on a discuté, je lui ai expliqué comment fonctionnait le monde spirituel, elle était très ouverte à l'évangile, elle a accepté de demander pardon à Dieu, j'ai prié pour elle, je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour son cabinet, enfin pour tout nettoyer ça au niveau spirituel. Vraiment ouverte. Et dans son cabinet, à un moment donné, je vois partout, il y avait des certificats de formation auxquels elle avait participé. Et puis, je voyais beaucoup de trucs en lien avec la guérison. Et en parlant de ça, elle me dit, mais vous savez, dans toutes les formations que j'ai suivies, on parle souvent de Jésus. Les magnétiseurs, les guérisseurs, les énergéticiens, ils sont tous fans de Jésus, c'est elle qui me l'a appris. Hein? Parfois, ils lisent même des textes des évangiles quand ils sont ensemble. Parce que Jésus, c'est le meilleur, quoi. Il a des résultats, il a les meilleurs résultats. Donc, eux, ils aiment trop, quoi. Ils disent, c'est trop fort, quoi. Hein? Par contre, elle m'a dit, il y a une chose qu'on ne m'a jamais dite. Et vous, vous êtes le premier à me le dire. Et ça l'a scotché. On ne m'a jamais dit que Jésus était venu pour sauver. Personne ne m'a dit ça. Alors que je lui ai expliqué que la première mission pour laquelle le Christ était venu, c'était pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, pour nous sauver de l'enfer et nous emmener au ciel avec lui et changer notre vie. Et ça, elle n'en avait absolument pas conscience, voyez. Donc tout ça pour dire que dans ce monde-là, vous avez un grand mélange. Donc ne vous étonnez pas si vous rencontrez des guérisseurs qui mélangent tout. Hein, ne vous étonnez pas si vous rencontrez des guérisseurs qui même vous citent des versets de la Bible. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, qui peut être récurrent. Mais ce n'est pas parce qu'on cite la Bible qu'on est forcément en Christ. Hein. Satan et ses démons connaissent très très bien la Bible, et pourtant ils ne peuvent pas être en Christ. Mais voilà. Donc attention, il y a un grand mélange dans ce monde-là, un grand syncrétisme. On prend un petit peu tout ce qui marche à droite et à gauche, on essaye et on fait un petit peu sa propre cuisine. Vous avez aussi un problème, notamment chez les faiseurs de secrets, c'est ces fameuses prières bizarres. Donc des prières qui vont être adressées à des saints qui sont en réalité, on le disait tout à l'heure, des saints catholiques. Donc pourquoi adresser des prières à des saints ? Donc comme moi j'ai des catholiques en face de moi et que je vois qu'ils ont un certain intérêt pour leur propre foi, mais qu'ils sont à fond là-dedans, je leur dis, écoutez, vous êtes en porte-à-faux avec ce que vous croyez. Bah oui. Et vous êtes même en porte-à-faux avec le catéchisme de l'Église catholique. Parce que le catéchisme de l'Église catholique dit à plusieurs reprises de ne pas aller consulter les guérisseurs, de ne pas voir les voyants, que ceux qui font ça sont soumis à des forces paranormales auxquelles on ne doit pas toucher. Donc vous êtes en porte-à-faux non seulement par rapport à la Bible, que vous devriez connaître, non seulement par rapport et à votre propre catéchisme. Donc voilà, et vous ne trouvez nulle part dans la Bible des saints qu'on doit prier. Les deux ou trois références qu'il y a se trouvent non pas dans les 66 livres inspirés, mais se trouvent dans quelques livres apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus, en tout cas, comme étant inspirés. Vous retrouvez aussi des invocations des énergies, des puissances. Et puis à côté de ça, il ne faut pas se laisser prendre. Vous trouvez parfois le nom de Jésus. Moi, j'ai un jour un guérisseur qui assiste à une de mes conférences qui me dit, dans ma prière, moi, il y a le nom de Jésus. Il me sort ça debout à la fin de la rencontre devant tout le monde dans le temps des questions. Mais je lui dis, mais Jésus, c'est qui ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Jésus, c'est un prénom. Le Jésus que vous invoquez, est-ce que c'est Jésus le Seigneur, Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ ? Ah ben non, c'était un Jésus dont il ne connaissait absolument rien. Et la preuve que son truc venait pas de Dieu, c'est que, me dit-il, chaque fois que je fais le secret sur quelqu'un, je sens comme s'il y avait quelqu'un qui me coupait une partie de mon capital vie. Il sent physiquement dans son corps qu'on lui enlève quelque chose et il sait qu'il vivra moins longtemps. Et à la fin, je voulais avoir un entretien avec lui, il était retourné intérieurement et malheureusement il n'était pas prêt encore à aller plus loin. Donc du coup il est parti, hein, il tenait pas en place, il n'arrivait pas. C'était spirituellement, c'était à l'intérieur de lui, il était complètement remué. Ça arrive parfois, hein, quand vous avez des gens qui entendent ce discours pour la première fois, ça les impacte d'un point de vue intellectuel, émotionnel, mais d'un point de vue spirituel aussi. Tout d'un coup, ils ressentent des choses qui bougent dans leur propre corps et ça leur fait mal. Et si le Saint-Esprit n'intervient pas tout de suite, ils ne vont pas pouvoir rester. Le secret aussi doit être dit à voix basse, alors que Jésus, dans les évangiles, fait toujours les choses à la lumière. Aujourd'hui aussi, dans le christianisme, quand vous priez pour quelqu'un, ben vous allez prier devant les autres, vous lui imposez les mains, il n'y a pas de recette magique. Bien sûr, on va souvent invoquer le nom de Jésus, c'est normal, puisque c'est le nom au travers duquel nous pouvons être sauvés, pardonnés et restaurés. Mais là, il y a beaucoup de l'ordre de la magie. Autre problème aussi qu'on remarque chez pas mal de guérisseurs, et en particulier chez les faiseurs de secrets, c'est le problème des maladies qui reviennent ou se déplacent. On remarque que c'est jamais guéri pleinement, ou alors qu'il y a d'autres problèmes. Il y a 2 ans ou 3 ans de ça, j'étais à Bordeaux, dans une église baptiste. J'ai fait une conférence sur le sujet, et puis le premier soir, il y a une dame de l'église qui vient, qui est handicapée, mais qui avait aussi, en plus de cela, un gros problème sous la plante des pieds. Elle avait des problèmes, elle se grattait, elle faisait je ne sais combien de dermatos, etc. C'était quelque chose qui était très incommodant pour elle et ça lui pourrissait totalement sa vie. Et elle me dit que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait déjà eu ce problème-là et elle était allée chez un guérisseur et le guérisseur avait fait quelque chose et c'était parti. Et par la suite, c'est revenu, mais c'est revenu encore beaucoup plus fort. Et lors de cette conférence, même si elle était déjà chrétienne depuis de nombreuses années, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais demandé pardon à Dieu pour ça, et qu'elle n'avait jamais réalisé que c'était quelque chose de mauvais d'un point de vue spirituel. Et donc j'ai prié pour elle, et ensuite j'ai prié pour sa guérison, et elle a été guérie là. Elle m'a encore envoyé un mail il y a quelques semaines de cela, j'ai sur mon ordinateur, comme quoi ben, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle est guérie, elle est tellement reconnaissante au Seigneur, parce qu'il n'y a plus rien du tout, quoi. Hein, et elle remercie Jésus et le nom de Jésus. Donc parfois les gens vont être soulagés pendant un temps, mais après les problèmes reviennent. Ou alors ils reviennent sous forme d'ordre psychologique ou autre, comme si ça avait été masqué, comme s'il y avait une sorte de couche, une bonne couche, un bon fond de teint qui a été donné, hein, un bon coup de Photoshop là, qui a été mis, mais en réalité c'est pas ça quoi. Et puis le plus gros problème que vous rencontrez chez les guérisseurs, c'est ce qu'on appelle le fameux transfert. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez ça chez, pas chez tous les guérisseurs, mais chez pas mal de guérisseurs. Donc le transfert, c'est quoi? Le transfert, c'est la personne qui prend sur elle le mal dont vous souffrez. Si vous avez vu le film La Ligne Verte, vous voyez de quoi je parle. La Ligne Verte avec Tom Hanks, qui du reste est un beau film, vous avez un black qui est accusé à tort d'avoir violé deux petites filles qui se retrouvent dans le cou... tué, pardon. Ah, c'est tué, oui, tué. Tué deux petites filles et qui se retrouvent dans le couloir de la mort, donc en attendant d'être condamné, mis à mort hein, aux États-Unis. Et là, il y a un des gardiens, Tom Hanks, justement, qui va nouer contact avec lui. Hein. Tu me reprends si je me plante. Hein. Il connaît bien ses classiques, là. Hein. Il suit, Clément. Et donc, qui prend sa main, et quand il prend sa main, par exemple, quand lui, il a mal au ventre, ou je ne sais plus où est-ce qu'il a mal, eh bien, il prend son mal sur lui, et ensuite, ce mal l'affecte, et par conséquent, il faut se décharger. Et lui, il se décharge, dans le film, ce sont des insectes qui sortent, mais il y a un principe spirituel et vrai qui existe. Je connaissais un ancien guérisseur suisse, je crois, ou je ne sais plus, lui, il se déchargeait sur des plantes. Je rencontrais d'autres guérisseurs qui vont se décharger sur tel ou tel objet, et c'est instantané. Et je connais aussi des guérisseurs que j'ai rencontrés qui ne savent pas comment se décharger. Et par conséquent, ils sont bloqués pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et ils dysfonctionnent complètement intérieurement, parce que le mal qu'ils ont pris sur eux les ronge, quoi. Ça, c'est un truc que vous ne trouvez absolument pas dans la Bible. Ça, c'est typiquement de l'ordre de la magie, du rituel magique. Dans la Bible, le mal est ôté, c'est Dieu qui le prend. Celui qui s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, c'est le Christ. Et par conséquent, quand on prie pour quelqu'un, même si Dieu nous donne un don à ce moment-là pour prier pour elle, eh bien, elle va être guérie, mais le mal, ce n'est pas nous qui le prenons. Le mal, c'est Dieu qui le prend. C'est Dieu qui l'ôte et c'est Dieu qui va réparer à ce moment-là. Madame, vous voulez dire quelque chose, oui? Oui, tout à fait. Alors effectivement, là, il y a eu un transfert, mais le transfert n'a pas été, c'est pas le Christ qui l'a pris. Le Christ a accédé juste à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre exemple dans le Nouveau Testament, mais vous avez celui-ci en effet, où le Christ, effectivement, va accéder, on ne sait pas forcément pourquoi, à leur demande, mais il accédera à la demande. Hein. Mais d'un point de vue spirituel biblique, concernant la maladie en tant que telle, et non pas la démonisation, mais la maladie, bien que parfois il y ait des ramifications, hein, on sait que certains malades, dans les évangiles et aujourd'hui aussi, c'était dû à un démon. Non pas forcément à la présence d'un démon, mais à un démon qui leur a fait du mal, ce qui est différent. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un démon qui est là, mais c'est le démon qui les a, qui a jeté ça à la base. Mais le transfert n'a absolument rien à voir. Et d'un point de vue biblique, normalement, vous n'avez pas cette notion de transfert qui est là, hein, puisque c'est Dieu qui intervient. Et là, le Christ accède à la demande des démons, effectivement, puisque se retrouver dans rien du tout, se retrouver dans un endroit où ils ne sont plus incarnés est quelque chose d'extrêmement désagréable. Et c'est pour ça que les démons cherchent à s'incarner. Hein. Et ils le font souvent dans des animaux, c'est très courant. Moi, j'ai des témoignages de personnes... Je ne peux même pas vous raconter, c'est des trucs de fous qui m'ont été relatés, quoi. Des gens qui se sont retrouvés avec, non seulement il y avait des démons chez eux à la maison, mais les animaux. C'est comme les enfants, ce sont souvent les premières victimes parce qu'ils sont très sensibles et ils n'ont pas forcément les protections que des adultes vont pouvoir mettre en place. Et les animaux, on en parle encore moins, surtout les porcs. Quelques mots sur ces personnes, avant de passer aux médecines alternatives et de terminer avec la question de l'hypnose. C'est un truc que j'ai fait récemment, j'ai appelé ça « comment les évangéliser » ou plutôt « comment les aborder ». Que ce soit les guérisseurs ou d'autres personnes qui sont dans ce monde. Donc puisque nous sommes entre chrétiens cet après-midi, je vous donne quelques clés. Ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, ce n'est pas tout complet. Quelques points, quelques petites idées. D'abord, ne pas les diaboliser. Dites-vous bien que quand vous parlez à des personnes, que ce soit des guérisseurs, vous rencontrez un Georges Delalloy qu'on a vu tout à l'heure, vous rencontrez un médium comme j'ai rencontré celui au mois fin décembre, ou alors comme ce médium qui avait demandé à me rencontrer pendant plus de 3 heures à l'église de Benfen il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, ce sont des gens qui ne connaissent pratiquement rien au niveau spirituel biblique. D'accord ? Ils sont dans le cirage. Ils sont complètement paumés. Rares sont ceux qui savent comment ça fonctionne d'un point de vue spirituel. Ceux qui sont dans la sorcellerie, oui, savent, mais on n'en rencontre pas beaucoup là-dedans. Ils ne savent pas. Donc si vous leur parlez tout de suite du diable, si vous leur parlez des démons, si vous leur parlez de liens, vous leur parlez chinois, soit ils vont se moquer de vous, soit ils vont rire, soit ils vont vous dire mais qu'est-ce que c'est ce Gus, ce farfelu quoi. Tu me parles de ça, mais moi le diable, j'y crois pas. Et si je savais qu'il existe, il est avec tout le monde, sauf avec moi, puisque moi j'aide les autres. Et puis en plus, j'ai jamais rien demandé. Donc, faut pas commencer comme ça avec eux, absolument pas. Sauf si vraiment ils sont très intéressés sur le sujet, dans ce cas-là, vous pouvez directement rentrer plus dans la Bible et si vous avez le sentiment que l'Esprit de Dieu vous conduit dans ce sens-là. Après, c'est à chacun de voir. Deuxièmement, n'ayez pas peur de bannissez la crainte. Bannissez la crainte et n'ayez pas. Et puis aimez-les aussi. C'est un péché au même titre que d'autres péchés. C'est des liens, alors pas forcément au même titre que d'autres liens, parce que ça a d'autres ramifications, mais c'est en les aimant et en n'ayant pas peur aussi de passer du temps avec eux. Bien sûr, vous allez vous protéger, hein, d'un point de vue spirituel aussi, avoir des gens qui prient pour vous, etc. On en parlait l'autre jour, mais faut pas avoir peur d'être avec eux, voyez. Faut vraiment être là, bannir la crainte. Vous êtes en Christ vous êtes protégé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ressentir des tiraillements, ça ne veut pas dire qu'à certains moments donnés, ça ne va pas déménager, ça ne va pas bouger chez vous à la maison ou ailleurs. Ça peut, hein, ça peut. Mais, voilà, on bannit la crainte. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, même si à certains moments c'est dur et il faut réellement mener un combat. Et un combat, ben, c'est un combat. N'ayez pas peur non plus de les toucher. Hein. Il y a des gens, des chrétiens qui parfois, ils ont peur. Ce n'est pas parce que vous serrez la main à un guérisseur ou vous embrassez un médium que vous allez vous attraper quelque chose. Vous n'allez rien attraper. Hein. Du reste, ce sont souvent des gens très gentils. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et parfois, ça nous déstabilise ou ça peut nous déstabiliser. Mais vous ne laissez pas déstabiliser par ça. Ce sont des gens très gentils. Les guérisseurs et les médiums sont souvent des gens charmants. Ce sont des gens qui sont parfois même très altruistes. Ils sont beaucoup dans l'empathie, dans l'émotionnel, certains. Beaucoup comme ça, quoi. Et ils sont généreux pour certains d'entre eux aussi. Mais ce n'est pas un critère de vérité. Un critère de vérité, ce n'est pas la gentillesse. Hein. Si c'était la gentillesse ou les bons sentiments, le critère de vérité, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, on est dans la galère. Ne vous laissez pas non plus impressionner par leurs dons, par leur charisme, tout ça. Rappelez-vous que vous êtes en Christ et qu'en Christ, le Seigneur, il nous propose totalement autre chose et que c'est bien différent. Donc, on ne se laisse pas prendre par ça. Quand vous discutez avec eux, si vous voyez qu'il y a une ouverture, prenez le temps de les écouter, vraiment. Prenez le temps de les écouter et puis aussi poser des questions, essayez de discerner ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Utilisez des témoignages, soit de votre propre expérience, si vous en avez, si vous n'en avez pas, utilisez des témoignages d'autres personnes. Moi, quand je vois qu'il y a une ouverture avec certains avec qui j'ai discuté, eh ben, ils sont tout contents de voir quelqu'un qui les comprend. Parce que souvent, ils rencontrent des gens qui les comprennent pas. Soit les gens, ils sont pour eux, ils ont bénéficié de leur service, mais ils ne cherchent pas à creuser plus loin. Soit il y en a qui sont sceptiques et ils ont aussi bénéficié de leur service. Mais rares sont ceux qui vont s'intéresser à eux. Vous voyez, les gens, ils ne s'intéressent pas souvent à eux parce que parfois, ils ont un petit peu peur d'eux, même s'ils ont bénéficié de leur service, ou ils les prennent un petit peu comme des magiciens, comme des personnes un peu spéciales, et ils ont peur de s'intéresser à eux. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, intéressez-vous à eux. Et quand vous voyez que vous intéressez à eux et que vous voyez que vous connaissez ce monde-là, comme moi, j'ai rencontré le médium, on a commencé à discuter, j'ai commencé à utiliser des termes. Et il m'a dit, ah, mais comment tu sais ça, quoi? Il a vu que je connaissais plein de choses sur ce monde-là. Donc, du coup, on a pu commencer à discuter. Et puis, moi, je l'ai écouté. Et puis, après, il m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de ça? Et voyez, et progressivement, j'ai pu poser des jalons. J'ai pu lui apporter autre chose. Et moi, je n'ai pas caché la couleur. Et le gars, il a assisté à toutes mes conférences sur le sujet, comme je disais l'autre soir. C'était le premier, le soir, après toute une journée de ski, à venir et à être là. Le gars, il voulait savoir ce que la Bible dit sur le sujet, quoi. Il voulait savoir comment fonctionne le monde spirituel dans la Bible. Parce qu'eux, ils ont reçu certains éléments d'information concernant le monde spirituel, mais qui ne sont pas ceux de l'Écriture, ou qui mélangent des éléments de l'Écriture et d'autres choses d'ailleurs. Et quand vous commencez à leur parler des contre-coups aussi, surtout chez les guérisseurs, le gars, il vous dit, mais comment tu sais ça, quoi? Parce que souvent, les guérisseurs, ce sont des gens qui souffrent. Ils ne vont pas vous le dire, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas sur leur tête. Mais vous avez des guérisseurs qui sont embêtés, des médiums. Hein. Moi, je rencontre un médium, il me dit, ben, souvent le soir, quand il veut dormir, il y a des entités spirituelles qui l'embêtent. Il met 45 minutes à s'endormir. Ils viennent l'embêter dans son lit. Il me dit, vous n'avez pas ça? Je dis, non, moi, je n'ai pas ça. Moi, moi ils ne viennent pas m'embêter. Moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Quoi. Hein? Et s'ils devaient venir m'embêter, ben, ils n'ont rien à faire ici. Ils partent au nom de Jésus. Quoi. Ben oui, je suis chez moi. Et quand je suis chez moi déjà intérieurement, quoi, et à l'extérieur aussi, ben oui. Et ils sont embêtés par ça. Ils passent, ils voient des choses dans le monde spirituel. Ils sont tout le temps, ils sont embêtés. Je me souviens quand je l'ai rencontré, ce médium, il est venu à la salle paroissiale. Au début, il s'assoit à côté de moi. Puis tout d'un coup, il me dit, ouf, il me dit là, je sens que... Là, il y a mon énergie qui part, quoi. Alors, il sort sa baguette, je ne sais plus en quoi, là, une baguette, hein, et puis il me dit, « Oh, pasteur, oh, vous êtes juste assis au-dessus d'un nœud énergétique. » Parce que lui, il croit beaucoup dans les nœuds énergétiques. Ça veut dire, c'est les fameux nœuds de Hartmann. En Alsace, vous avez beaucoup ça. Soi-disant, tous les 2,50 m, il y a un nœud qui est là. Et si vous vous couchez sur ce nœud-là ou si vous asseyez sur ce nœud-là, ça va pomper toute votre énergie. Et donc, par conséquent, c'est pas bon. Il faut déplacer les objets, etc. Pardon ? Si, c'est aussi un petit peu, on retrouve ça dans le Feng Shui aussi. Hein ? Voilà, et puis il faut changer. Et il me dit, alors peut-être qu'il y a quelque chose, j'en sais rien. Mais alors lui, il commence avec ça, il me dit, ah, je vais mettre là-bas en face. Et puis alors, il me regarde pendant 5-10 minutes, c'est comme ça. Il me dit, vous ne sentez pas là, ça sent pompe les énergies. Je lui dis, non. Je lui dis, moi je m'assois où je veux. La terre appartient au Seigneur, et moi j'appartiens au Seigneur, et je m'assois où j'ai envie de m'asseoir. Hein? Et je ne vais pas me laisser prendre par ça. Le gars, il était esclave de 36 000 croyances. Il était gentil comme tout, quoi. À la fin, il m'a même dit, est-ce que je peux vous envoyer des clients, quoi. J'ai dit, non. J'ai dit, vous m'envoyez personne, quoi. Hein. Un jour, il m'a dit, bah, alors je vous téléphone une fois. Un jour, il m'a envoyé quelqu'un, un gars qui était vraiment blindé, quoi. Hein. Mais il a réalisé qu'il y a des choses au niveau spirituel. Il veut bien faire, voyez, mais il s'y prend mal. Il est même allé à l'évêché de Strasbourg voir l'exorciste, voir les curés, les chanoines là, et il les a engueulés, quoi. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels, pourquoi vous ne les aidez pas? C'est fou, quoi. Ça m'a touché quand il a dit ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Moi, je suis obligé de les aider. Donc, c'est des gens qui sont dans ce même monde spirituel qui vont aider les autres. C'est un fatra pas possible. Pas possible. Vous voyez? Et ces gens-là, donc, il faut leur apporter un éclairage, quoi, hein, et leur apporter autre chose, quoi. Bon, après, des fois, ça remue, quoi, hein, parce que, voilà, c'est pas neutre. Et puis, quand vous voyez qu'il y a une ouverture qui est là, vous priez pour eux, vous menez le combat, et s'ils ont envie d'être accompagnés, eh bien, vous les accompagnez. Maintenant, je ne vous cache pas, hein, que ceux qui sont bien ancrés là-dedans, c'est pas évident, quoi, hein, parce qu'il y a non seulement la puissance qui est là, mais il y a aussi une séduction de l'ordre intellectuel. Il y a une séduction spirituelle, bien sûr, qui est là, et puis une séduction intellectuelle. Le médium ou certains guérisseurs, ben, voilà, ils ont la Bible, mais ils ont tous leurs ouvrages à côté, hein, sur le monde spirituel. Ils s'intéressent beaucoup à l'angélologie, le fonctionnement des anges, etc. Et puis finalement, ils n'empruntent pas à ce que la Bible dit sur les anges, mais ils empruntent à la Kabbale. Hein, voilà. Ah, c'est un mélange, un fatra pas possible, quoi. Un mot maintenant sur les médecines alternatives. Nous arrivons tout doucement à la fin. Les médecines alternatives. Alors, leur développement, comme le disait Magali Génie tout à l'heure au début de la vidéo, est à relier avec la vague écolo, la vague bio aussi. Il y a beaucoup de positifs, hein, dans tout ce qui est écolo et bio, mais moi, ça me fâche de plus en plus quand je vais de temps en temps dans un magasin bio pour acheter l'un ou l'autre truc. C'est le bazar, hein. Pour vous promener dans les rayons, vous écoutez un petit peu le naturopathe, ils ont tous un naturopathe là. Ah, les gars, il y en a plein qui ne sont pas clairs du tout. Hein. Et puis quand vous regardez les publicités qui sont laissées là-dedans, séminaire sur les énergies, séminaire sur ceci, guérison d'un tel, guérison de machin, cette vague-là a ouvert la porte à autre chose. Voilà. À tel point que c'est presque devenu une religion aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est une certaine forme de religion. Les médecines alternatives sont nombreuses. Hein. L'OMS en recense 280 pour l'Europe occidentale. Donc, si vous voulez les connaître, vous allez sur le site de l'OMS et elles sont toutes là. Que ce soit homéopathie, médecine anthroposophique, iridologie, kinésiologie, enfin bon, bref, vous ne vous en sortez plus, ça finit plus. Alors, les médecines alternatives ne sont pas à mettre toutes au même plan. Vous avez celles qui sont saines, entre guillemets, où il n'y a pas de souci, et puis vous en avez d'autres où c'est plus compliqué, parce qu'il va y avoir des appels à des énergies, et d'autres qui sont un petit peu moins compliquées, mais qui restent quand même un petit peu déstabilisantes et embêtantes, parce qu'il n'y a pas forcément des énergies ou des dons qui vont être mis en jeu, mais il va y avoir les fondamentaux, les croyances qui ne collent pas. Voilà. C'est plutôt au niveau de la croyance qui a généré ou qui sous-tend la pratique médicale proposée que ça gêne, sans qu'il y ait pour autant question de don. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ça devient parfois un petit peu compliqué. Et je vous avoue que je ne suis pas trop, je ne me sens pas à même d'en dire trop et plus sur le sujet, puisque moi-même je ne suis absolument pas médecin, et par conséquent j'aborde vraiment cette question et celle de l'hypnose, et encore plus celle-ci, avec une réserve assez grande. Deux écueils. Mais bon, après ça, ça nous aide dans une certaine mesure, mais pas tout. Le premier écueil, c'est de diaboliser. Et parfois, je rencontre dans les milieux chrétiens un peu un manque de sagesse et de discernement à ce niveau-là. À partir du moment où on ne connaît pas quelque chose ou que quelque chose nous fait peur, on a tendance à diaboliser la chose. Et ça, c'est normal, on le retrouve partout. Dès que quelque chose, on ne le connaît pas, on n'a jamais essayé. Hein, bon, c'est un Alsacien, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais mangé, je ne mange pas, je ne goûte pas. Donc, on prend du recul. Mais parfois, on prend tellement de recul qu'on va diaboliser la chose. Si on est chrétien, on va dire « c'est pas bon ». Je pense personnellement qu'il faut être parfois un petit peu plus nuancé. Et avant de dire « c'est pas bon », comme par exemple les guérisseurs dont je vous ai parlé, pour les raisons que je vous ai données et qui sont avérées, on va quand même prendre le temps d'écouter, d'essayer de savoir ce qui se passe. Un discernement, qui est un discernement d'ordre intellectuel, mais venant de Dieu aussi, puis voir s'il n'y a pas des principes spirituels et de son esprit, est nécessaire. Et d'autre part, moi j'encourage aussi toujours les gens à se renseigner sur les pratiques et poser des questions. Par exemple, d'où est-ce que ça vient? Quels sont les fondements philosophiques? Quelles sont les croyances? Et puis surtout se renseigner sur le thérapeute. Parce que parfois vous pouvez avoir des pratiques qui sont sympas ou qui passeraient encore ou qui seraient dans une sorte de no man's land, plus ou moins. Mais à côté de ça, vous avez un thérapeute qui est pourri. Non, ce n'est pas le terme, ce n'est pas très sympa, mais qui est chargé, qui est blindé au niveau spirituel. Et par conséquent, puisqu'il est blindé, tout ce qu'il va faire, admettons, il fait de la kiné, il n'y a aucun problème avec la kiné. Admettons, il fait des massages, comment ça s'appelle là? Le ostéopathe, il n'y a aucun problème avec les ostéopathes. Mais après, vous trouvez des ostéopathes qui sont complètement à l'envers. Les gars c'est Madame Soleil, quoi. Hein, moi, j'ai des gens, ils m'ont dit, ah, il m'a mis les mains comme ça, il m'a dit, vous avez eu un accident à 5 ans, vous avez eu ci, vous avez eu ça. Et l'autre, il se tourne. Mais oui, normalement, ils manipulent, mais vous avez des ostéopathes qui font plus que manipuler. Vous avez des ostéopathes qui manipulent et bidouillent, quoi, hein, au niveau spirituel. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont relaté, je parle de chez moi en Alsace, hein, ce qui s'était passé. Donc, encore une fois, il n'y a pas de problème avec l'ostéopathie ou plein d'autres pratiques, mais on va faire attention. Parce que ce qu'on remarque, la chose suivante, et j'en sais quelque chose, puisque mon oncle est naturopathe, il pratique à côté de chez moi, à Kiel, en Allemagne, et lui, il est dans le Seigneur, mais la plupart de ses collègues, c'est des trafiquants au niveau spirituel, ils ne sont pas clairs, les gars. Certains sont plus ou moins chargés. Le problème, c'est que quand on s'intéresse à une médecine globale de l'être humain, ce qui est le cas un petit peu de toutes ces médecines alternatives, à un moment donné, on va toucher à l'esprit. Voyez ? Déjà, on va toucher à l'âme, ce qui est dangereux, mais on va aussi toucher à l'esprit à un moment donné. Et si on n'a pas des bons fondamentaux, c'est-à-dire des fondamentaux chrétiens, concernant le fonctionnement spirituel et la manière dont fonctionne l'être humain dans sa globalité, on va prendre des éléments d'information, des croyances et des dons d'ailleurs. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que tout d'un coup, on va noyauter la personne. Et si vous voulez, toute cette vague de médecine alternative est intéressante, mais en même temps, pour moi, elle a aussi un aspect très dangereux, dans le sens que c'est la porte ouverte à tout, à tout. Et puis vous avez aussi des thérapeutes là-dedans qui non seulement sont mal formés, ne se forment pas, mais vous avez même des thérapeutes autoproclamés. Des gens qui ont bénéficié d'une aide à deux ou trois reprises, par exemple, et qui ont vu des résultats sur eux-mêmes, ont commencé à développer des dons et mettent des cartes au super-U. Et se proposent d'aider les autres. Ça, c'est hyper dangereux. Non seulement c'est dangereux d'un point de vue spirituel, mais c'est dangereux aussi d'un point de vue quand on touche au psychisme de la personne. On peut faire des dégâts énormes. Moi, j'ai quelqu'un qui était dans ce milieu-là, qui est super bien formé et qui était dans un truc occulte, et j'ai dû prier pour elle parce qu'elle voulait s'en sortir avec son mari. Eh bien, elle me disait, elle-même qui a grandi dans ce monde-là, me dit, elle est effarée par ce qui se passe actuellement. Et c'est pourtant quelqu'un qui était pour pendant longtemps. Elle me dit, je suis effarée. Elle me dit, ça part dans tous les sens aujourd'hui. On ne gère absolument plus rien du tout. Et ça fait des dégâts. Des dégâts non seulement au niveau psychologique, au niveau du porte-monnaie, ça c'est que dans un troisième ou quatrième temps, mais des dégâts aussi au niveau spirituel. C'est même pas la peine, quoi. Vous allez dans les super-rues, chez nous, vous avez je ne sais combien de cartes, hein. Un tel guéri ici, énergie machin, magnétiseur là-bas, rééquilibrage des énergies chez l'autre. C'est grave, quoi. Un mot à propos de l'hypnose. Alors, on va essayer pour voir si ça marche. Vous êtes d'accord? C'est ce que tu m'avais dit, Rebecca. Hein, tu m'as dit, hein, on veut faire l'avion. Ben, on va faire l'avion. C'est bon, là, je ne serai plus jamais invité. J'aborde le sujet vraiment avec beaucoup de pincettes, dans le sens que je ne suis vraiment pas un spécialiste du sujet, mais ça me force un tout petit peu à réfléchir dessus, et que j'ai peu d'expérience et aussi voire aucune expérience pratique sur le sujet, contrairement à la question des guérisseurs et autres dont je vous ai parlé ce week-end et puis aussi tout à l'heure. Donc, si j'en crois ce qui est véhiculé et ce qui est dit, l'hypnose est une méthode mise au point à la base en psychiatrie, et l'objectif c'est ce que eux disent, hein, mais en réalité on ne sait pas forcément entièrement comment ça fonctionne, c'est qu'en court-circuitant les processus mentaux, eh bien, ça permet normalement, d'un point de vue théorique, d'accéder plus facilement à l'inconscient. L'inconscient, pourquoi ? L'inconscient pour pouvoir guérir ou pour permettre aussi, dans certaines formes d'hypnose et dans certaines thérapies, de pouvoir guérir les personnes de souvenirs douloureux du passé. Maintenant, j'ai aussi vu récemment que, notamment aux États-Unis, on se pose pas mal de questions par rapport à ces souvenirs du passé, parce que on a vu qu'il y a beaucoup de personnes, soi-disant, qui, dans ces souvenirs douloureux du passé, dans des séances d'hypnose, auraient dit qu'elles ont été violées, qu'elles ont subi des abus, etc. Et on se demande si c'est pas quelque chose, si c'est forcément toujours quelque chose de vrai, et si c'est pas quelque chose qui a été induit par le thérapeute, plus ou moins, pendant la séance de l'hypnose, ou alors si c'est pas les craintes et les peurs de la personne qui la font parler et font dire ça à un moment donné. Donc on ne sait même pas, on ne sait pas forcément si toujours si c'est juste. Donc même eux, parfois certains prennent des pincettes et remarquent que c'est loin d'être aussi évident que cela. Si vous voulez, vous avez en hypnose, apparemment d'après ce que j'ai compris, deux grandes écoles. Vous avez la première école qui est l'école de la foire, c'est Mesmer. Hein ? Donc la foire, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous allez sur YouTube ou sur Internet, et puis encore ce week-end, je regardais ce matin, Mesmer a fait, je ne sais plus, là, la télévision, il a fait son show, et donc il va hypnotiser des personnes, et là, il se base beaucoup sur la suggestion. Comme disait madame, d'ailleurs, ça ne marche pas avec 10-15% des personnes, ça ne va pas forcément marcher, mais des personnes qui ont une certaine réceptivité, ou même une réceptivité pas trop forte, si l'hypnotiseur est bon, il va réussir au travers de la parole, de certaines paroles qu'il va dire aussi, et d'une technique qu'il va utiliser, parce qu'à la base, l'hypnose, c'est surtout une technique, il va réussir à induire, à faire faire certaines choses aux personnes. Et donc, Mesmer, qui a travaillé pendant longtemps en hôpital, hein, utilise ça maintenant pour gagner sa vie et pour faire la foire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce gars-là, et donc il fait des choses qui sont assez étonnantes parfois, hein, ou déroutantes. Donc la personne, par exemple, va coller les bras le long du corps, elle est consciente, elle a les yeux ouverts, mais elle n'arrive plus à les bouger. Elle va lui dire, maintenant tu as tes pieds par terre, il ne bouge plus, et il va mettre un ballon devant, elle ne peut pas taper dans le ballon. Et il arrive même à mettre des personnes en état de catalepsie, c'est-à-dire il va complètement les rigidifier, ensuite il va les mettre sur deux tabourets, et la personne va rester raide, et il y a même quelqu'un qui va faire asseoir dessus, et l'autre ne sentira rien du tout. Hein, donc du coup, voilà. Donc ça, c'est utilisé vraiment pour le show, pour en mettre un petit peu plein la vue, etc. Donc ça, c'est la première forme d'hypnose qui est l'hypnose de type spectacle. Et puis le deuxième type d'hypnose, c'est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Et là, on sollicite davantage la participation active du patient. Il y a beaucoup de portes entre ces deux types d'hypnose, hein, l'un empruntant à l'autre. C'est souvent en milieu hospitalier, en milieu dentaire, milieu d'anesthésie, etc., qu'on va utiliser l'hypnose de type ericksonienne. On va former les personnes, justement, par exemple, lors de certaines opérations, on va à la fois donner des sédatifs, et puis on va également proposer l'hypnose pour ne pas mettre la personne sous des drogues, hein, sous du poison. C'est ça, hein, qu'on nous propose, les sédatifs lors des opérations. Donc, pour que ça soit, pour moins empoisonner le corps de la personne, on va proposer de vivre l'hypnose, notamment pour les opérations du cerveau. Et parfois, ça se révèle même utile. Dans certains cas, j'ai la tante de ma femme qui travaille justement à Genève, où ils font des opérations, elle est anesthésiste, où ils travaillent, ils ouvrent toute la journée, elle ouvre des crânes, quoi. Et donc, elle me disait que parfois, certains, ils étaient en hypnose, justement, on les endormait juste parce que c'est douloureux là, mais dès qu'on ouvre la boîte crânienne et qu'on touche ce qu'il y a dans le cerveau, on ne sent absolument rien. C'est absolument pas douloureux. Hein. Et donc du coup, ben voilà, quand il y a des personnes qui ont des tumeurs et autres, pour ne pas empêcher par exemple que le doigt marche ou la commande du doigt ou de la main marche, on va toucher telle partie, on va demander à la personne, bougez votre main, et puis certains n'arrivent plus à bouger. Alors ils comprennent que là, ils ne peuvent pas toucher, il faut qu'ils passent par autre part, pour que la personne puisse conserver, que son cerveau puisse continuer de commander les différentes parties du corps. C'est assez impressionnant ce qu'ils font. Donc voilà, c'est dans un cadre comme ça, par exemple, médical, ou alors on va donner un léger sédatif, et puis après, le sédatif va partir, puisque quand on travaille dedans, ça ne fait absolument pas mal, il n'y a aucune douleur qui est là. Alors, à propos de l'hypnose, quelques petites choses encore. Elle est, je le disais, hein, de plus en plus utilisée en médecine, en psychothérapie aussi. Alors, elle va être utilisée pour lutter contre la douleur, hein, on parlait des opérations dentistes, etc., mais aussi pour se libérer de certaines dépendances, par exemple le tabac. Beaucoup de gens qui vont utiliser l'hypnose pour le tabac, pour les questions de boulimie, beaucoup travailler sur les questions d'anxiété, de troubles, les problèmes de sexualité, les peurs aussi, c'est souvent utilisé pour les peurs, et puis parfois ça va être utilisé aussi pour la question de la gestion des souvenirs, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça va être utilisé. Concernant le principe ou les principes d'action de l'hypnose, alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que j'y connais pas grand-chose. Le peu que j'ai compris, c'est qu'apparemment tout le monde n'est pas d'accord sur les principes qui sont mis en jeu. Il y en a qui vont vous dire que c'est des endorphines qui vont être sécrétées pendant le temps d'hypnose et que par conséquent, ces endorphines étant sécrétées, eh bien, ça va enlever la douleur, hein, la souffrance que la personne a, parce qu'on sait justement que l'endorphine, eh bien, permet de créer ce genre de choses. D'autres, ils vont avoir d'autres éléments d'explication, etc., sur cette question-là. Selon les protagonistes, c'est-à-dire les gens qui sont là-dedans, ils soulignent bien, ou plusieurs d'entre eux soulignent qu'il n'y a là-dedans, si on les écoute, rien d'ésotérique ou rien de paranormal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Je vous donne quelques pistes, hein, et les pistes que je vous donne, peut-être que je les corrigerai et certainement que je les améliorerai dans les mois et les années à venir. Donc, c'est à l'heure actuelle ce que moi je pourrais vous dire sur le sujet. D'abord, c'est un phénomène qui pourrait relever ou qui relève même, selon Gilles Boucomont, à qui j'en parlais récemment, d'un certain principe de quelque chose de l'ordre naturel, c'est-à-dire de l'ordre créationnel. Parce que nous vivons tous ce qu'on appelle des auto-hypnoses. Je vous donne un exemple que moi j'ai vécu souvent, qui n'est pas un bon exemple, mais je l'ai vécu. En voiture, par exemple, sur l'autoroute. Moi, j'aime bien rouler en voiture, hein. Fait des centaines de kilomètres là sur l'autoroute, et puis après un bon repas, tu vois, tu as bu un bon verre de rouge là, parfois quoi, il y a. Hein, tu te détends, alors il ne faut pas tomber dans les bras de Morphée, mais bon, moi ça m'est arrivé de vivre des moments où je ne m'endormais pas, mais j'étais comme dans un état second. Et je pense que c'est inconsciemment que je me suis mis dans cet état-là. Hein. Sans le rechercher ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'avais les yeux ouverts. Je suis pleinement conscient que je suis en voiture, je peux passer mes vitesses s'il le faut, je peux freiner s'il le faut, je ne sais pas si j'ai autant de réflexes qu'autrement, mais ça dure quelques minutes ou 5-10 minutes comme ça, ça dure. Et tout d'un coup, dans ce moment-là, je suis vraiment bien, mais j'ai les yeux ouverts, quoi. Et je suis présent, par contre, je ne vais pas parler, quoi. J'ai vraiment pas envie de parler à ce moment-là. Je suis vraiment bien, je ne suis pas assoupi, quoi. J'ai pas les yeux qui ont envie de se fermer. Et tout d'un coup, je sors de ce moment-là et je suis en pleine forme, quoi. Mais en pleine forme, comme si j'avais vécu une sorte de régénération. Le mot est un petit peu fort, là, d'après les spirituels. La régénération du Saint-Esprit, là. Non, une régénération intérieure, ouais, et une sorte de sommeil. Et j'en parlais à quelqu'un, il me dit, mais c'est une micro-hypnose. Et on vit tous ce genre de choses, parfois. Ou quand une situation est parfois trop douloureuse pour nous, on se met inconsciemment. Donc, semblerait-il que c'est un phénomène qui est vraiment d'ordre naturel. Maintenant, c'est quelque chose à ne pas manier, à ne pas utiliser, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'importe comment. Hein ? Alors, certains vont vous dire aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire qu'il y a des sécurités au niveau de notre cerveau. Autrement dit, normalement, on ne pourrait pas faire à quelqu'un quelque chose qu'on ne veut pas que cette personne fasse. Si, par exemple, on vous hypnotise, je prends un cas extrême, mais qu'on vous dit, voilà, on vous hypnotise, on vous demande d'embrasser, je ne sais pas moi, une femme ou un homme, si vous êtes un homme ou une femme. Donc vraiment, voilà, de faire quelque chose contre votre propre nature et vos croyances et vos valeurs. D'après ce qu'ils disent, ça ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire qu'il y aurait un secret. Après, j'en sais pas plus. Je ne sais pas est-ce que c'est 100% vrai ou pas. Hein. D'autres choses que j'aimerais dire aussi par rapport à ça. J'ai remarqué en fouillant un peu le sujet que vous avez des hypnothérapeutes, pas ces hypnothérapeutes, mais des hypnothérapeutes qui parlent quand même d'effets secondaires. Hein. Il y aurait quand même dans l'hypnose des effets secondaires ou des dangers. Certaines personnes parlent d'une dépendance qui peut s'installer à l'égard de l'hypnose, et les gens, il y en a qui voient en ça une sorte de panacée, et donc ça va m'aider à régler tous mes problèmes. Et donc, j'ai un problème avec la cigarette, je vais utiliser ça. J'ai un problème avec mes craintes, je vais utiliser ça. J'ai un problème avec ceci, je vais utiliser ça, je vais utiliser ça. Et puis finalement, en utilisant ça, vous êtes 100% passif. Hein. Et donc, il y en a qui parlent d'effets secondaires qui se manifestent, entre autres, au travers d'une dépendance. Une dépendance qui n'est pas bonne, puisque c'est une dépendance. C'est-à-dire que la volonté de la personne n'est plus mise en œuvre. Or, si Dieu nous a donné une volonté, et si on ne croit pas en Dieu, on va dire que c'est la nature qui nous a donné une volonté, eh bien celle-ci est importante et il faut la mettre en œuvre. Il faut qu'on soit pleinement acteur dans un processus. Donc là déjà, certains hypnothérapeutes, ça les gêne par rapport à ça. Et puis ensuite, il y en a aussi qui ont vu qu'il y avait d'autres conséquences. Des personnes qui pensaient, par exemple, à qui ils avaient fait passer un message, et puis ensuite, à la fin, ils vont dire un mot ou autre chose, et puis la personne sort de son hypnose. On a remarqué qu'il y en a à qui on avait donné un message, et par la suite, quand ils se sont retrouvés dans une situation où le mot a été dit, où la phrase a été dite, qui les avait mis en hypnose, eh bien, ils n'étaient pas déconnectés du truc. Ils étaient encore connectés. Un exemple que j'ai lu, qui est assez gore, mais bon, enfin assez sale, c'est une dame à qui on avait dit « tu peux manger tout ce qu'il y a dans ton assiette ». Et par la suite, elle s'est retrouvée un jour, elle-même était malade avec du vomi, elle a commencé à le manger, quoi. Parce qu'elle avait eu cette phrase qui lui avait été dite, et donc il y a une déconnexion qui s'est pas... quelque chose qui n'a pas été déconnecté, quoi. Hein. Voilà. Alors ça nous montre quoi ? À travers ça, moi j'ai l'impression que ça nous montre tout simplement qu'il faut être très prudent parce que, en réalité, quand on travaille au niveau de l'hypnose, d'après le peu que j'ai pu comprendre, en tout cas c'est l'éclairage aussi que Gilles Boucomont m'a donné dessus, on travaille en réalité sur l'âme de la personne. Et donc l'âme, je vous rappelle que l'âme, c'est ce qui comprend la volonté, notre capacité à décider, à faire des choix. L'âme, ça comprend aussi nos émotions. Joyeux, triste, euphorique, tout ce que vous voulez, et l'intelligence. Donc nos capacités intellectuelles que nous développons, qui augmentent, etc. Et donc en allant chez un hypnothérapeute, on lui ouvre la porte. Alors bien sûr, moi ce que je fais aussi comme différent, je l'ai noté là, je fais la différence entre don et pratique technique apprise. Hein. Les guérisseurs, on est dans le domaine du don. Et qui dit don, dit donateur. Alors que dans l'hypnose, on n'est pas dans le don. Dans l'hypnose, on est dans une technique. Ça veut dire que n'importe qui peut apprendre l'hypnose. Vous pouvez apprendre l'hypnose, je pourrais apprendre l'hypnose et vous pourriez avoir des très bons résultats. Parce que c'est une technique. Maintenant, c'est une technique qui pour moi n'est pas neutre. Qui n'est pas neutre forcément tout de suite d'un point de vue spirituel, mais qui n'est pas neutre d'un point de vue dans le sens qu'on touche à l'intérieur de l'être humain. Et quand on touche à l'intérieur de l'être humain, ben voilà, on ne peut pas toucher n'importe comment, quoi. Vous avez des gens, on a entendu, qui ne déconnectent pas, vous avez des personnes qui vont développer une sorte d'addiction, qui sont passifs, et puis à côté de ça, vous avez des choses aussi parfois beaucoup plus embêtantes. Si vous avez affaire à un hypnothérapeute qui n'est pas clair au niveau spirituel, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il peut y avoir un transfert. Parce que la porte est ouverte, hein, je vous en parlais l'autre jour. Quand la porte est ouverte, qu'est-ce qui se passe? La porte est ouverte dans l'intérieur de la personne et aussi à son esprit, surtout si celui-ci n'est pas sous le contrôle du Christ, et donc le Saint-Esprit n'est pas là. Et donc, puisque le Saint-Esprit n'est pas là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et à ce moment-là, peut se passer un transfert. Et un transfert qui sera un transfert alors de l'ordre spirituel. Et c'est là que ça risque d'être embêtant. Je vous donne un exemple. Dernièrement, avant j'avais une position qui était plus nuancée, plus cool par rapport à tout ce qui est hypnose, dans le sens que je mettais vraiment ça dans la catégorie des dons et pas autre chose, mais j'ai changé d'avis ces derniers mois. Là-dessus, je suis maintenant plus prudent. J'étais notamment dans le sud de la France et j'ai une dame qui me dit, mais vous savez, moi j'ai vécu une drôle d'expérience. C'est la femme, elle était là avec son mari, c'est la femme d'un pasteur, et elle m'a dit, pendant plusieurs années, elle allait à l'église. Et donc, son mari était là, puis de temps en temps, c'était son mari qui prêchait, des fois c'était d'autres pasteurs, et chaque fois, pendant le message, elle s'endormait. Ouais, tu peux rigoler, hein. Je ne sais pas si vous en avez parlé l'autre jour, non, de ça. Elle s'endormait pendant le message. Alors bon, est-ce que c'est mon mari, est-ce que c'est vraiment la prédication, la Bible, est-ce que je suis crevé? Mais c'était un endormissement qu'elle ne contrôlait pas. La louange, les annonces, tout, elle était partout, elle n'avait pas sommeil. Elle n'avait pas sommeil. Au moment où la Bible était lue et on commençait à prêcher, elle me dit, je m'endormais. C'est devenu tellement embêtant qu'elle a décidé, avec son mari, deux, trois frères de l'église et sœurs, de prier. Ils ont jeûné pendant 3 jours pour cette histoire. Ils ont dit, c'est pas normal, parce qu'elle est allée voir des médecins, etc. Ils ont dit, c'est la fatigue, elle dormait, elle faisait ci ou ça. Ça ne marchait pas. Et à la fin du jeûne, eh bien, tout d'un coup, en priant pour elle, ils ont eu le mot hypnotisme. Et elle s'est rappelée que bien des années auparavant, elle s'était fait hypnotiser. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du transfert qui a eu lieu à ce moment-là? Ou est-ce que c'est une parole qui a été dite, et chaque fois que cette parole était dite par rapport à un message, tout d'un coup, elle se mettait en hypnose parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été déconnecté? J'en sais rien. En tout cas, ils ont juste prié pour elle. Elle m'a dit, j'ai senti comme quelque chose qui est sorti au niveau de ma main, de mon bras. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Alors, l'erreur serait de dire que toute hypnose a un lien malsain tel que celui-ci, vous voyez. Je pense qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là, absolument pas. Hein. Et personnellement, je n'irai pas dans ce sens-là. Et Gilles Boucomont, qui est plus aguerri que moi sur le sujet, et à qui je fais très confiance, parce que c'est à mon avis un des meilleurs sur le sujet, la question de la délivrance actuellement en France, même en Europe, au niveau théorique et pratique, n'irai pas non plus dans ce sens-là. Néanmoins, voilà, il faut garder une certaine vigilance parce qu'il y a des facteurs là qui nous échappent, que nous ne maîtrisons pas encore, que peut-être nous découvrirons certainement dans les temps à venir. Donc, par conséquent, si l'hypnotiseur a des liens spirituels, il est possible, hein, comme je disais, qu'un transfert puisse s'opérer. Et par conséquent, le patient ouvre ainsi les portes de son âme, c'est-à-dire qu'il va lui donner les clés. Voilà, tu lui donnes les clés, hein. Je te donne les clés, vous lui donnez les clés pour rentrer chez vous, dans votre maison. Donc, on réfléchit à qui, de la même manière qu'on réfléchit à qui on va prêter sa maison. Hein. Voilà. De la même manière, on réfléchit aussi à qui on prête son corps quand on veut se faire opérer. Bon, généralement, on cherche un bon médecin, un bon chirurgien, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec quelque chose qu'il oublie en nous, ou que sais-je, quoi. Hein. ou alors qui se trompe de côté pour, dans l'opération, ou que sais-je. Donc là, c'est exactement la même chose. Voilà ce que je peux vous en dire un petit peu concernant l'hypnose. Concernant les guérisseurs, je suis plus tranché, beaucoup plus, vous l'avez compris, parce que là, pour moi, les choses sont vraiment claires et limpides. Maintenant, concernant là, on navigue dans des eaux où ce n'est pas évident. Madame, ça fait longtemps qu'elle veut poser la question. Hein, ça... Oui, effectivement, ça je veux bien le croire, que c'est une autre partie de nous-mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que l'hypnose peut paraître impressionnante, hein, dans les résultats qu'elle permet d'obtenir, ni même dans ce qu'on peut voir dans l'hypnose de foire, qu'il y aurait forcément quelque chose immédiatement d'occulte. Hein. Mais quand même, moi je pense personnellement qu'il faut garder une certaine prudence. Je ne verserai pas dans le diabolisme, hein, vous l'avez compris, dans ce que je dis. Alors maintenant, concernant l'hypnose spectacle, disons pour moi la différence se situe. Bon, on disait qu'il y a deux types d'hypnose, mais après les uns et les autres, d'après ce que j'ai compris, vont d'un endroit à l'autre. Pour moi, la différence se fait davantage au niveau éthique et au niveau de ce qu'on va en faire. Voyez ce que je veux dire. Il y en a qui vont utiliser ça pour s'amuser ou pour amuser les autres, et puis il y en a qui vont l'utiliser de manière médicale. Mais ce qui n'empêche que les axiomes, les fondamentaux, sont toujours les mêmes. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça, voilà. Après, moi, je dirais, personnellement, c'est à chacun de se situer par rapport à ça. Moi, personnellement, j'aurais du mal. Donc, dans ce cas-là, je préfère appliquer le principe biblique, à savoir, moi, je préfère m'abstenir. Mais maintenant, si quelqu'un veut le faire, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas moi qui lui dirais non. Hein, je lui dirais, voilà, après, c'est à toi de prier, de voir ce que tu penses. Par contre, s'il s'agit de guérisseur, là, j'aurais un autre discours, quoi. Surtout si j'ai affaire à quelqu'un qui est chrétien. Mais encore une fois, après, effectivement, ça relève toujours de notre responsabilité et de notre discernement personnel. On ne laisse pas partir, ou alors on les laisse beaucoup partir. Déjà, moi, je respecte la décision des parents en tant que tels, parce que c'est les parents qui ont autorité sur leurs enfants, et par conséquent, c'est à eux de fixer ceux qu'ils acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Maintenant, tu me poses la question. Moi, personnellement, je pense que je les laisserai partir aussi, en réfléchissant un petit peu là, mais c'est clair que la bonne attitude et l'attitude que j'aurai, c'est vraiment de prier pour eux, quoi. De prier pour eux, et puis de prier aussi vraiment dans le sens que non seulement ils soient protégés, mais qu'on ne fasse pas quelque chose sur eux. Et que si, indépendamment de leur volonté, pour X raisons, il y a quelque chose qui devait être fait, que cela n'ait aucune influence sur eux, voilà, dans le nom de Jésus. Au contraire, que il y ait quelque chose qui les empêche et qui vraiment les... Et moi, je pense qu'il y a une protection que Dieu met, que Dieu donne. Hein, je vous donne un exemple. J'ai des amis en Alsace, là, sur Colmar. Ils avaient mis leurs enfants dans une école, à un moment donné, privée, où ils faisaient aussi beaucoup de musique, parce qu'ils sont à fond dans la musique. Et à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ils se sont retrouvés. C'était, je crois, que c'était les deux garçons, ou un des garçons, je ne sais plus exactement. Ado s'est retrouvé dans le cours de sport. Ils avaient 12-13 ans. Et ils ont eu un prof de sport où ils faisaient des arts martiaux, comme on fait plein de trucs, quoi. Et à un moment donné, ce prof de sport, il s'est amusé à jeter les enfants à terre. Mais comme dans Star Wars, quoi. C'est-à-dire, il étendait la main comme ça, et les gosses, à plusieurs mètres, là, il les projetait à terre, quoi. Donc le gars, il y avait autre chose au niveau spirituel, quoi. Et ses enfants, ou son enfant qui était là, ils étaient déjà chrétiens, convertis à l'époque, là, 12-13 ans, ils ont tout de suite vu que c'était pas bon, quoi. Et intérieurement, ils se sont tout de suite positionnés, ils ont prié. Mais le prof, un jour, a voulu les faire tomber ou autre, il a fait le truc sur eux, il était scotché, ça marchait pas, quoi. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez un truc, là, vous êtes plus puissant que moi, quoi. Le mec, il n'en revenait pas. Il était complètement à tel point qu'il en a parlé avec eux. Il leur a dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre puissance? Vous, etc. Après, les gosses, ils ont raconté ça aux parents, quoi. Et les parents, ils les ont enlevés du machin, quoi. Mais il y a eu, tu vois, il y a vraiment eu une protection sur eux parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà dans le Seigneur. Et puis aussi parce que les parents priaient. Donc, même si nos enfants ne sont pas encore dans le Seigneur, eh bien, c'est nous qui avons l'autorité spirituelle sur eux. Et c'est par conséquent nous qui les couvrons jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de prendre une décision, quoi. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas que cette gamine qui a plein d'eczéma, il y ait quelque chose là aussi, certainement. Parce qu'on a remarqué aussi que ceux qui vont beaucoup chez les guérisseurs, les faiseurs de secrets, c'est fou. Ceux qui se sont brûlés, qui commencent à aller chez ceux qui barrent le feu et tout ça, eh bien, à un moment donné, ils y vont plein de fois, quoi. Ils commencent à se brûler beaucoup plus, ils commencent à avoir plein d'autres problèmes, et ils sont soulagés, mais en même temps, il y a plein d'autres trucs qui commencent à venir. C'est bizarre, quoi. Alors, il y a deux choses, effectivement, des fois, il faut se méfier. Enfin, il ne faut pas se méfier, mais il faut prendre plusieurs avis. Parce que, vraiment, dans le monde médical, c'est comme partout. Quand vous faites des travaux dans votre maison ou ailleurs, il y en a qui va vous faire ce budget, qui va vous dire on peut faire ça. Puis après, vous avez quelqu'un d'autre qui dit ah, mais non, on peut faire ça. Et puis, 6 mois après, vous apprenez qu'on peut encore faire autrement. Donc, c'est vraiment pas tout simple. Et puis après, il y a quelque chose de très important que vous dites là. Il faut agir en fonction de sa conviction, quoi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, nous dit la Bible, est péché. Et donc, voilà, sauf si c'est vraiment péché et dénoncé comme péché, mais si après on n'a pas la conviction dans un sens, moi je crois que Dieu honore notre foi. Dieu voit notre foi, et donc il honore aussi notre foi, et il permet de trouver d'autres solutions. Et ça c'est très important. Mais il faut se positionner personnellement. Il peut effectivement, après moi je connais le cas d'un couple chez qui j'étais une fois en Suisse, et le monsieur était pourtant né de nouveau, ben il est quand même allé voir un guérisseur parce qu'il souffrait tellement dans son usine, quelqu'un qui faisait je ne sais plus quoi, les épaules ou autre, et du coup ça a jeté un sale truc sur sa vie, quoi. Alors par la suite il s'est repenti, mais ça l'a fortement perturbé pendant un certain temps, quoi. Et il s'est quand même mis sous un joug étranger, et consciemment en plus, Donc des fois Dieu nous garde et nous protège, mais dans d'autres situations, bon, on ne sait pas toujours non plus. Quelques questions encore sur notre sujet en général ? Alors, on va essayer de le retrouver, on peut juste le retrouver ce verset ? On offrira un café à celui ou à celle qui la retrouve. Ouais, je ne m'angoisse pas trop, tu vois. En plus, ce n'est même pas moi qui le paye. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je voulais juste vérifier si c'était le cas dans la Bible, mais je crois que c'est le cas. Que faut-il penser qu'ils guérissent? Mais ils guérissent dans quel nom? Oui, au nom de Jésus. Voilà. Vous avez dit quelque chose de très juste là. C'est au nom de Jésus. Voyez. Donc c'est pas au nom de quelqu'un d'autre. C'est réellement au nom de Jésus. Et au travers de ça, ben pourquoi est-ce que les disciples réagissent comme ça? Parce que les disciples, ben ils avaient la primeur, quoi. Ils avaient été choisis par le Christ. Ils étaient contents d'être dans leur ils étaient dans le groupe restreint qui bénéficiait de tout l'enseignement de Jésus. Et puis à côté de ça, on sait que les disciples, il y en avait plein d'autres qui suivaient, qui étaient là, qui étaient constamment aussi avec. Et donc certainement qu'il y a des groupes qui ont dû se détacher. Ils ont dû voir comment ça fonctionne. Du coup, ils ont dit, ben, nous, on va faire notre petite salade de notre côté, quoi. C'est comme une église qui dit, ben, nous, voilà, on ne travaille pas avec les autres, nous, on va faire notre petit truc de notre côté. Et puis, tout d'un coup, vous avez des églises un petit peu partout, de manière anarchique, qui vont se développer comme ça. Ah ben, Seigneur, s'il était là, il est là, mais s'il nous parlait comme ça, ben, il dirait, ben, laissez-les faire. Ils agissent en quel nom? Ils agissent au nom du Seigneur. Donc, c'était au nom de Jésus qu'ils travaillaient. Donc, ça ne le dérangeait pas plus que ça, vous voyez. Ce qui est différent que si ça avait été d'autres noms. Je pense qu'il n'aurait pas eu la même approche, quoi. Madame a trouvé le verset? Ah, ça sera un bon café. Amen. Marc 9, combien alors? 39. Marc 9, 39. 29. En plus, c'est facile à retenir. Marc 9, 29. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment centré sur Alors moi, je pense que y a deux choses dans la question. Il y a d'une part don de connaissance, tu disais, puis parler en langue, et puis après, il était question de chasser des démons et de discerner, c'est ça ? Discerner, ouais. Alors, pour répondre à la deuxième, moi je dirais personnellement que oui, je pense que c'est de l'ordre de chaque église d'aider les personnes qui sont en souffrance. Je vous donne un exemple. Juste avant de venir, là, à 13h, j'ai téléphoné quelqu'un qui a voulu me joindre pendant le repas de midi. Je téléphone à 13h et c'était un jeune qui s'appelle Clément aussi et qui me téléphone du Mans et qui m'a téléphoné la semaine dernière. Et le gars, il avait des forts liens spirituels et il s'est converti il y a peu. Et il est dans le domaine catholique et puis c'est un petit peu la foire-fouille dans sa tête, quoi. Et la semaine dernière, j'ai prié pour lui et vraiment, il a été libéré de certaines choses. Et il me dit, maintenant, il y a d'autres choses qui viennent encore et je sens que c'est tout n'est pas réglé, quoi. Et donc il y a des liens sur lui, sur son frère, sur sa maman, toute la famille, quoi. Et moi je lui ai dit, écoute, il faut que vous changiez de crèmerie, quoi. D'habitude je dis pas trop ça aux gens trop rapidement, mais je dis il faut que vous alliez dans un endroit où on va s'occuper de vous, quoi. Il faut que vous alliez dans une église. Alors en l'occurrence les églises évangéliques normalement quand même s'occupent mieux des personnes à ce niveau-là. Donc je lui ai filé l'adresse, j'ai regardé tout de suite et je lui dis vous y allez, vous dites vous venez de ma part et puis vous demandez que le pasteur et l'église s'occupent. Donc pour moi c'est vraiment l'église locale qui doit s'occuper, parce que si tu envoies des gens, tu vois, moi je peux faire certaines choses au téléphone, mais ce jeune qui a 20 ans là et toute sa famille, ils ont besoin d'un suivi, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement pastoral, ils ont besoin tous de se convertir, ils ont besoin d'être équipés, nourris. C'est pas deux ou trois prières de délivrance, ça va les aider, mais ça va pas. Il y a d'autres choses. La délivrance, c'est quelque chose de complet. La prière n'est qu'un aspect et l'éclairage que tu peux donner aux gens. Après, il y a tout l'accompagnement. Donc moi, je crois vraiment que c'est l'Église qui doit faire ça. Et puis aussi, Dieu lui envoie les gens qu'il faut au moment où il faut, quoi. Après, il faut aussi être ouvert et prier et pour que le Seigneur envoie et les uns et les autres mettent la main à la pâte, voilà, et ça va se faire. Et concernant les dons, ben voilà, après les dons, c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut vivre déjà dans sa propre vie et comment est-ce que l'Église veut aussi les vivre, etc., les accueillir. Mais moi, je dis, pour moi, c'est quelque chose vraiment de très important. Moi, je crois que tout chrétien peut vivre, s'il le souhaite, davantage la présence et les dons de l'Esprit. Parce que pour moi, ce n'est vraiment pas lié à une catégorie particulière de chrétiens. Et moi, je lutte même contre cela. C'est mon cheminement spirituel aussi. Moi, c'est ce que j'ai vécu comme ça. Et moi, je crois que Dieu, il veut donner à tout le monde. C'est juste une question de réceptivité et d'ouverture à Dieu. Le Saint-Esprit est présent dans tous les enfants de Dieu. Pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas croire dans le Christ si l'Esprit n'est pas là. C'est impossible. Mais après, est-ce qu'on est ouvert à ce que l'Esprit de Dieu travaille dans notre vie et est-ce qu'on sait l'entendre et l'écouter ? C'est ça. Et après, est-ce qu'on est prêt à accueillir les dons qu'il nous donne ? Et après, est-ce que l'Église est prête aussi à les accepter ? Sachant que les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Et ils sont donnés pour l'aide, pour la libération, pour le bien, etc. Donc c'est les dons en réalité n'ont rien de magique. Ils peuvent avoir un aspect spectaculaire parfois dans le cadre de la prophétie, par exemple. Ça peut avoir un aspect spectaculaire, mais quand on arrive à dépasser cet aspect spectaculaire, ça ne nous dérange plus. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des amis qui sont prophètes et donc qui vraiment sont des gens qui reçoivent beaucoup de choses, quoi, de la part de l'Esprit. Mais alors au début, ça peut nous impressionner, mais après qu'on a l'habitude de travailler avec eux, qu'on voit que c'est des êtres humains comme tout le monde et que c'est simplement des dons différents, ça ne nous dérange absolument plus, quoi. On trouve ça tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal, entre guillemets, ou autre, quoi. Voilà. En tout cas, merci mesdames et messieurs aussi pour votre présence. Finalement, je pensais que j'en aurais pour une heure, c'était un peu plus long. Voilà. Ouais. Voilà. Que le Seigneur bénisse chacun.